Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau volet autour de l'IA, bien sûr, et de la stratégie digitale, hein, mon cœur d'activité. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent aujourd'hui, je me présente. Donc, je m'appelle Kaotar Méziane. Je suis consultante et formatrice en stratégie digitale et intelligence artificielle. Donc, j'accompagne, je conseille, je forme avec une approche métier, centré tout d'abord sur l'humain et aussi avec une approche éthique. Et ça tombe bien, puisque aujourd'hui, je reçois Frédéric Canevet. Bienvenue à toi, Frédéric. Je suis ravie vraiment de t'accueillir. C'est vrai qu'on partage ce sens de l'éthique et aussi notre activité dans la stratégie digitale. Alors, Frédéric, tu as une référence, hein, il faut quand même le dire, dans le gros hacking. Donc, tu vas avoir beaucoup de choses, je pense, à nous partager. Et c'est vrai aussi que ce qui m'a fait penser à toi aussi pour ce live, en dehors du fait que tu aussi animes des lives régulièrement et que tu es toi-même speaker, c'est que tu as vraiment cette approche centrée sur l'éthique. Et il est bon de rappeler que le growth hacking, pour ceux qui connaissent ce levier ou qui le découvrent aujourd'hui, c'est un levier particulièrement décrié. Donc, je vais t'inviter à te présenter davantage à notre audience, Frédéric.
Eh ben, merci pour l'invitation. Moi, ça me fait vraiment plaisir de participer à ce live avec toi aujourd'hui et présenter un petit peu ma philosophie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'ils sont très nombreux. Je m'appelle Frédéric Canevet. Donc, en fait, là, j'ai mis une petite image qui montre en fait qui je suis, puisque d'un côté, tu vois le costume, parce qu'en fait, je suis responsable des projets digitaux, donc tout ce qui est génération de leads, gestion du CRM, prise de parole, etc., etc., chez Elocamp, qui est donc éditeur de logiciels de centre de contact et d'enquête de SAT. Donc, tu vois, c'est le côté sérieux. Tu vois, on est une boîte qui est certifiée ISO 27001. On est une des boîtes, en plus, rare boîte dans le domaine du logiciel qui est certifiée RGPD, puisqu'il y a une certification RGPD. Donc, en fait, tu vois, c'est super sérieux. On s'adresse à des grands comptes, des grosses boîtes. On est une petite équipe marketing. On doit être 5-6, tu vois. Donc, tu vois, c'est assez structuré. Et ça fait plusieurs années donc, que je travaille dans ce domaine-là. Et en même temps, tu vois, j'ai créé ma boîte en parallèle de mon activité de salarié il y a à peu près 15 ans, lorsque j'ai lancé mon blog conseilmarketing.com. Et donc, là, c'est le côté un petit peu Superman, parce que tu vois, je me transforme. Dans... J'enlève un peu mes vêtements, je mets mon slip par-dessus mon jogging, et hop, ça y est, je deviens Superman, en fait, super gros hacker. Donc, en fait, et ça, c'est intéressant parce que ça me permet en fait de faire des choses que je ne peux pas tester en fait dans une entreprise. Et c'est là en fait où tu vois cet aspect éthique qui pour moi concerne plusieurs niveaux. Et ça, on le détaillera juste après. C'est pour moi, il y a l'aspect éthique, bien sûr, éthique au niveau de la donnée, des droits des personnes, et tu as l'aspect aussi éthique au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Et moi, j'appelle ça le degrowth hacking. C'est que t'intègres en fait cette notion de durabilité et d'efficience dans le gros hacking. Voilà.
Oui,
Et donc, je...
et c'est vrai qu'on parle aussi de décroissance. Alors, c'est un terme qui fait peur, mais en fait, cette décroissance dans le monde dans lequel aussi on évolue, c'est aussi quelque part faire les bons choix stratégiques
Exactement.
à ce que, pour que chacun puisse aussi bénéficier de sa part de croissance. Donc, c'est un sujet, je sais, qui te tient à cœur et qui me tient aussi à cœur particulièrement. C'est aussi en fait une manière quelque part de montrer qu'on peut intéresser, qu'on peut attirer aussi une large audience et qu'on peut faire du business tout en gardant une éthique.
Ah bah, tout à fait. En fait, tu vois, là, je vous ai mis deux bouquins que j'ai sortis. Donc, le gros hacking, c'est pour ça, en fait, que tu me dis, ouais, Fred, t'es une référence dans le gros hacking. Oui, parce que j'ai écrit un des premiers bouquins qu'au début de la tendance. Et c'est assez original, puisqu'en fait, au début, toi, c'est Dunod qui m'a contacté, qui m'a dit, ouais, est-ce que tu veux pas faire un bouquin sur le blogging? Parce qu'à l'époque, les blogs, c'était vraiment ce qui avait de plus tendance. Tu vois, mon blog, conseil marketing, il faisait 10 000 visiteurs par jour. Et donc, c'était, voilà, c'était un vrai business. C'était vraiment un vrai business à l'époque. Ça, c'était, je faisais en side business 40 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était quand même un truc en plus que je faisais pas à temps plein, quoi.
Et donc, mais t'es un pionnier également, Frédéric. T'as commencé
oui,
il y a
j'ai
longtemps.
Fait la première formation vidéo au blogging. C'était la première formation vidéo payante. C'était en 2009 avec Boris Schrenzel. Donc, oui. on a fait cette première formation vidéo. C'était assez marrant. C'était Boris était un très gros fan des méthodes américaines et les transposer en France. Et donc, on s'est bien amusé à faire cette formation qui était assez sympa. Donc voilà, donc ce bouquin-là, je l'ai coécrit avec Grégoire Gambato. Et d'ailleurs, si après je te raconterai l'histoire du livre, c'est toujours assez comique. Donc, on a sorti ce bouquin-là, on est à la troisième édition, plus de 10 000 exemplaires vendus. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai acquis un petit peu de la légitimité sur le sujet, parce que des gros hackers, il y en a plein. La grosse différence, en fait, c'est un petit peu d'essayer d'avoir une approche structurée et essayer d'évangéliser sur le sujet. Et vraiment, moi, si vous voulez travailler sur le sujet du gros hacking, il y a le groupe, le forum qui s'appelle grosshacking.fr qui est vraiment excellent, où tu trouves pas mal de trucs et astuces. Par contre, là, c'est le problème. C'est que tu as un peu de tout. Tu as des gens qui font de l'éthique, des gens qui font moins d'éthique, des gens qui font pas d'éthique du tout. Donc, il faut vraiment essayer de faire attention parce que c'est un des problèmes. C'est que tout ce qui est possible n'est pas forcément légal. Et c'est ça, en fait, que j'observe le plus souvent, moi, dans le domaine du gros hacking, c'est que les gens se disent « Ouais, mais tiens, je peux récupérer tes trucs. » Oui, tu peux le faire. Mais est-ce que c'est, un, légal, et est-ce que c'est éthique? Et ça, c'est le deuxième bouquin dont tu as parlé, qui est « Adapter son business dans un monde de consommation ». Je pense que là, on est en train de toucher tout juste la première partie d'un environnement économique qui va se durcir, alors où on va être forcé un petit peu de réduire notre consommation. Et justement, mon bouquin, il est là pour ça, celui-là, pour dire, bah tiens, attention, ça va venir compliqué dans les années à venir. Comment tu dois faire pour aligner ton entreprise avec le contexte à venir? Et en fait, ce bouquin-là s'adresse aux entreprises qui veulent en fait mettre en place une entreprise qui va être plus éthique et plus responsable au niveau de l'environnement. Au sens large, la société au sens large, et comment se préparer en fait au changement à venir. Et c'est ça en fait l'objectif. Donc c'est là que j'ai parlé du fameux concept de degrowth hacking, puisqu'en fait t'as souvent les gens disent le gross hacking, qu'est-ce que c'est le gross hacking? T'as l'aspect hacking, c'est toutes les astuces, les logiciels, les automatisations, les scripts. Et à chaque fois qu'on me demande, ouais, fais-moi une présentation sur le gross hacking, les gens me disent, montre-moi les hacks, montre-moi les trucs pour avoir plus de clients, etc. Et c'est pour ça qu'à la fin de la présentation, je vous ai réservé 7 petits hacks. Mais le gross hacking, c'est pas que ça. C'est la face émergée de l'iceberg, la face immergée de l'iceberg, c'est cette partie growth process, et c'est en fait c'est l'analyse de son cycle de vente, donc le fameux framework AARR, où on va identifier où dans son parcours client ou dans son cycle de vente, il faut améliorer les choses. Et c'est ça en fait ce qui est plus important, parce qu'un hack va te permettre d'aller choper plus de clients tout d'un coup, mais la partie growth, c'est ça qui va t'assurer la croissance dans le temps. Parce qu'en faisant suffisamment les bonnes choses et en agissant au bon endroit au bon moment, c'est là que tu arrives à avoir de l'efficacité. Et oui. À ces deux éléments-là, c'est cette fameuse degrowth hacking, c'est cette fameuse durabilité efficience, c'est-à-dire que tu vas mettre en place des actions qui vont faire en sorte que tu vas pas détruire la planète, quoi. La durabilité, c'est que tu vas pas spammer 10 millions de personnes en espérant avoir un taux de retour de 0,1%. Tu vas plutôt faire une communication ciblée sur quelques personnes. Et l'efficience, c'est aussi ça, c'est essayer de travailler avec le minimum de moyens et des choses qui vont pas prendre trop de moyens, énergie, ressources, financiers. Par exemple, tu vois, moi, j'essaye de faire assez peu de vidéos IA, parce que tout simplement, ça consomme énormément de puissance serveur. Et donc, j'essaie plutôt de travailler plutôt sur de l'image ou sur du texte et moins sur la vidéo, qui est ce qui est le plus consommateur en termes de ressources. Voilà.
Oui, parce que l'objectif aussi de ce live, c'est de rebondir sur le fait que le gross hacking, ce n'est pas uniquement un outil de prospection de masse, d'accord? Vraiment une démarche en fait, de cibler en fait, un maximum de personnes uniquement sur le côté quantitatif, même si c'est mal ciblé, même si, parce qu'on le voit toujours, même si c'est en mode bourrin, hein, ah on oui, est bien d'accord. C'est quand même l'un des derniers leviers du digital. C'est un levier puissant à condition de savoir l'utiliser. Donc, ce qu'on peut voir ces dernières années, c'est que en fait, il y a un usage qui est fait, qui dessert. Plutôt en effet ce levier, cette approche, alors que quand on a une connaissance plus approfondie, comme c'est ton cas, on peut l'utiliser de manière appropriée, personnalisée et en faire vraiment une force.
Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'IA, le gros hacking, offre des possibilités importantes d'automatiser des choses, de faire des actions. Le problème, c'est que si tu fais pas ça de manière intelligente, tu vas te tirer une balle dans le pied. Par exemple, moi, comme je le disais, on travaille au niveau des grands comptes. Donc moi, je sais que sur LinkedIn, grosso modo, j'ai une audience de potentiel, hein, cible d'à peu près 10-15 000 personnes. Là, en fait, avec mon compte LinkedIn, mon objectif, c'est d'aller fédérer, allez, peut-être 10 000 personnes de ce niveau-là. Mais donc j'utilise mon compte pour essayer de rassembler cette communauté-là, essayer de communiquer auprès d'elle, envoyer des direct messages, convertir cette audience. Et bien entendu, ce que je fais, c'est que avec les outils que j'utilise de gros hacking, bah, je gère aussi les outils les comptes des commerciaux. Tu vois, par exemple, là, de manière assez concrète, on va avoir un salon qui s'appelle All for Customers qui se déroule le 24-25 mars à Paris. Et ben tout simplement, on va, moi, j'utilise les comptes de mes commerciaux et le mien pour ajouter des personnes. Donc tous les gens qui sont dans notre cible, les 15 000 personnes responsables relation client, expérience client, ta 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 ta. Donc mon compte, le compte des 5-6 commerciaux, on rassemble tout ça et quand on envoie une invitation, eh ben on a la possibilité d'avoir beaucoup de gens. Enfin, on va mailler de plus en plus large en fait l'écosystème. Et là en fait, tu crées de la visibilité et tu crées de la crédibilité. Ce qu'il faut pas faire, c'est spammer les gens et te tirer une balle dans le pied. Par exemple, moi, je vois pas mal de personnes qui disent, bah, je vais envoyer 5-6 messages, je vais envoyer 3 messages dans la semaine. Le problème, c'est qu'en fait, tu as des retours de personnes qui vont dire, non, mais arrêtez de me harceler, il y en a marre de vos messages automatiques, etc., etc. Donc, il
Bien
faut
sûr.
vraiment faire attention à ça. Et c'est pour ça que je parle de partie éthique en disant, on va plutôt travailler sur l'efficience et se dire, mais qu'est-ce qui va avoir une efficacité qui va pas nuire à mon image? On n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne impression. C'est ça qu'il faut le faire. Par exemple, tu vois, moi, j'ai l'habitude de faire toujours le premier message qui est en automatique quand je fais une demande d'invitation parce qu'il y a peu de valeur ajoutée à dire bonjour Frédéric, j'aimerais vous ajouter à mon compte, je suis passionné par l'expérience cliente, etc. Ça n'a pas de valeur ajoutée et c'est pas là que tu vas créer du lien. Par contre, le second message, c'est toujours moi qui l'écris, ou mon assistante, et j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir dire, tiens, comment ça se passe dans votre entreprise? Tiens, j'ai un client dans tel domaine d'activité. En fait, tu vas vraiment personnaliser ce message-là et tu ne vas pas passer pour un spammeur, tu ne vas pas passer pour quelqu'un qui va essayer de te vendre un truc. Tu vas essayer de rentrer dans cet aspect un peu plus éthique. Parce que c'est vrai que l'IA offre des possibilités. Moi, je l'ai vu, hein. Je suis pas mal de gros hackers. Et à un moment donné, il y a un gros hacker qui avait connecté son LinkedIn avec un outil d'IA. Et c'est vrai que ça faisait tout le temps des relances, des relances. Alors au début, tu te dis, tiens, c'est marrant, pourquoi il me relance? Et tu te rends compte que c'était un robot. Et là, tu te dis, waouh! Je me suis fait tromper, je me suis fait avoir, plus jamais. Donc, il faut éviter cette partie-là de déshumanisation. En même temps, le gros hacking offre vraiment énormément d'opportunités, mais c'est aussi il faut faire attention à ce qu'on fait. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours, en gros hacking, tester manuellement quelque chose. Et une fois que ça marche, qu'on a vu comment ça fonctionnait, les erreurs, les limites, etc., qu'on a essuyé les plâtres, c'est là qu'on peut monter à l'échelle. Et c'est là que justement tu vas faire quelque chose d'intelligent ou qui va être pas trop entre guillemets visible en automatisation. En même temps, il faut faire attention au quotidien. Moi, je teste énormément de choses. Et tu vois, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait la grosse erreur des débutants. C'est-à-dire que je me suis amusé à faire de l'A/B testing sur des messages en fait LinkedIn. C'est-à-dire que le fameux salon dont je t'ai parlé tout à l'heure, je voulais en fait inviter mes contacts. Donc je me suis dit, bah tiens, j'ai peut-être testé deux versions d'un message. Je vais tester une version A et une version B, et je vais en fait celle qui fonctionne le mieux. Donc j'ai écrit la mienne, voilà, tranquille. Ensuite, j'ai utilisé Gemini. J'ai dit, bah tiens, est-ce que tu pourrais me créer une version plus conversationnelle? En utilisant soit en fait la méthode PASS, problème, agitation, solution, ou que j'aime bien utiliser, c'est dire, voilà, tu vas écrire une publication comme si tu étais un agent du FBI en mode soft power persuasif. Tu dois inciter la personne à te répondre sans être trop lourd, sans insister, etc., etc. Et c'est vrai que ça donne des résultats assez sympas quand on fait des textes comme ça. Donc voilà, je prends ma version à moi, je prends ces deux versions-là. Dans une des deux versions, je dis, ah ouais, celle qui m'a faite en mode négociateur du FBI soft power, c'est pas mal, un message très court, direct, etc. Je le copie-colle, je le mets dans mon truc, je lance, et puis c'est bon, je vais partir manger et je reviens à 14h. Et là, je vois à 14h une personne qui dit, ah, je crois, t'as dû faire une petite erreur parce qu'il y a marqué prénom. Je dis, ah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le logiciel que j'utilise, qui s'appelle LinkedIn Helper, est un logiciel en fait qui fonctionne en anglais. Et donc forcément, là, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai envoyé à Gemini, il a vu first name. Il s'est dit, first name, c'est prénom. Et forcément, l'automatisation, ah, était pété. Et c'est là justement qu'il faut essayer de reprendre ce côté humain. Et en fait, là, j'ai envoyé un message d'excuse, mais vraiment. C'est là que tu dois te dire, quand tu fais une erreur, tu dois transformer le pépin en pépite. Et là, j'ai dit, ben voilà, je suis vraiment, vraiment désolé. Je me suis trompé. Je vous ai appelé par votre prénom au lieu de votre nom. Moi, je n'aime pas non plus quand on fait ça. Ça m'ennuie beaucoup, surtout que, voilà, compte, c'est l'expérience client, ta, 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 ta. Et là, je dis, je vous présente vraiment mes excuses, je suis vraiment désolé, etc., etc. Et c'est vrai que là, il y a certaines personnes qui m'ont répondu, merci. C'est rare qu'il y ait des personnes qui s'excusent quand il y a des erreurs comme ça. Ah, ça peut arriver à tout le monde, machin, etc. Et ça m'a permis en fait d'échanger avec
Ah,
plusieurs personnes.
notamment chez les gros hackers, hein, si je peux me permettre, hein,
Ouais.
Frédéric. Hein. C'est l'ego, voilà, l'ego prend le dessus. Donc, tu
Oui,
montres
bah
aussi
oui.
quelque part qu'on peut, en effet, parce que l'erreur est humaine, donc on commet tous des erreurs, mais qu'on peut aussi avoir cette posture d'humilité. Et je pense que ça a été quelque part bien reçu par ton audience.
Ouais, parce qu'en fait, quand c'est sincère, en fait, ce qui est important, c'est que ça soit sincère et authentique. Parce que de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, avec les automatisations que cela va faire, quand tu vas réussir en fait à convaincre les gens, c'est avant tout de l'émotion et de la projection. Si les personnes en fait ne croient pas à tes valeurs, ne croient pas à ce que tu fais, à ce que tu es, eh ben en fait tu auras beaucoup de difficultés parce que tu ressembleras à toutes les autres. Quand tu auras en fait cette authenticité qui va être différente et qui t'est unique, à ce moment-là, les gens vont te faire confiance. Pourquoi en fait je ferai confiance à Frédéric plutôt qu'à un autre? C'est parce que je suis en phase avec ce qu'il dit. Et là, moi, je vois chez Eloquent, c'est ce qui se passe. Il y a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent, ouais, on a envie de travailler avec vous parce qu'on a vu vos webinaires, on a vu vos livres blancs, on a vu vos interventions. Et c'est ce qu'on appelle la persuasion dans Robert Cialdini qui a écrit un livre Influence et manipulation et persuasion. Et c'est on retrouve également dans le livre de psychomarketing de Stéphane Landy qui a écrit une méthode sur la spirale de la persuasion qui est assez intéressant. Et donc en fait, on dit bien que de plus en plus tu vas avoir des difficultés à convaincre des personnes parce qu'ils seront renseignés auparavant auprès des IA, sur Internet, en recherchant de l'information, en demandant à leurs collègues. Donc, si tu ne fais pas partie de la top liste, des gens qui sont vraiment deux références dans ce secteur d'activité-là, ben, tu es foutu. Parce que l'IA va te citer, tiens, tu vas dire quels sont les meilleurs éditeurs de logiciels de ce contact, ta, 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 ta. En fait, si tu ne fais pas partie de cette top liste, cette short liste, et si tu n'es pas vraiment identifié comme étant les personnes, ça va devenir hyper compliqué d'intervenir parce que tu seras site, enfin tu interviendras éventuellement dans la fin du cycle de vente alors que les gens seront déjà plus ou moins convaincus. Donc c'est là en fait qu'il va falloir travailler cette persuasion et cette persuasion, en particulier quand tu es dans le B2B, passe par LinkedIn, mais c'est pas que LinkedIn, hein. Cette persuasion passe d'abord, donc comme je le disais, en publiant du contenu, mais le publier du contenu ne sert plus à rien. Avec cette saturation de contenu, cette contenu IA, cette infocalypse, comme on dit, ce débordement d'informations, tu n'auras pas le choix que, publier uniquement ne suffit plus. Tous les gens qui disaient il y a quelques années, pour LinkedIn, publie régulièrement, publie tous les jours. Non, c'est faux, ça ne marche pas, ça ne marchait pas et ça marche encore moins maintenant. Ce qu'il faut, c'est créer du lien avec les personnes, du lien authentique. C'est pour ça que moi, depuis le début, je dis que tu dois absolument rassembler les membres de ta communauté dans ton écosystème. C'est pour ça que je te dis que moi, j'essaye de te faire de mes comptes et des comptes des commerciaux, d'aller rassembler les personnes. Et une fois que tu as ces personnes-là, tu dois les convaincre et faire en sorte qu'ils te fassent confiance. Et c'est pour ça que moi, je recommande d'événementialiser. Événementialiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas proposer aux contacts que tu as ajoutés, qui sont dans ton réseau, d'agir. Et comment tu les fais agir et qu'ils t'accordent du temps? Eh ben, en fait, tu proposes un événement. Ça peut être un webinaire, ça peut être une étude, ça peut être une matinale, ça peut être participer à un salon et tu leur dis, ben voilà, il y a quelque chose qui est intéressant, si t'intéresses de venir, il y a tel truc, t'as un webinaire, etc. Alors, moi, je suis beaucoup sur pousser de l'information. Avoir des témoignages clients, des retours d'expérience, parce que c'est intéressant, mais ça peut être de l'audit, ça peut être un audit concurrentiel, une analyse d'un concurrent, enfin, peu importe. Mais en tout cas, je pense que si tu n'as pas cette action qui est faite manuellement sur ton réseau et sur la base que tu possèdes, eh ben en fait, tu joues au dé, c'est-à-dire que tu espères que LinkedIn ou les autres réseaux vont afficher en fait tes publications à tes contacts, alors que c'est faux. C'est le réseau affiche ce qu'il veut, il affiche en fait à ton réseau ce qui lui paraît le plus intéressant. Et généralement, c'est des trucs qui buzzent, c'est pas des trucs trop métiers. C'est pour ça qu'aussi, il faut alterner des publications très grand public et des publications larges. Toi, par exemple, j'ai fait une petite publication sur une vidéo qui est liée à la relation client, où en fait, on montrait des livreurs de DPD tout ce qui est les livreurs aux États-Unis, UPS et compagnie, donc qui livraient. Et c'est vrai que c'était une vidéo virale qui était sortie où on voyait qu'un mec avait mis en fait un petit cookies et un petit mot au livreur. Et les livreurs, en fait, au lieu de balancer le colis, en fait, ils déposaient tranquillement le colis, etc., etc. Et c'est vrai que cette vidéo a fait, je crois, 250 000 vues ou 300 000, enfin, un truc comme ça, vraiment un chiffre de dingue. Mais ce que j'ai vu dans les statistiques, c'est que ça a généré peut-être 200, 250 clics sur le lien vers mon site. Donc, faire des vues, c'est bien, mais convertir, c'est mieux. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut véritablement travailler sur cette authenticité, cette liaison. Et ça vient tout à fait dans cette partie éthique. Parce que si tu es que dans l'automatisation et jamais dans l'humain, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que quand j'ai en fait mon réseau, j'essaie de travailler cette authenticité, ce relationnel. Tu vois, par exemple, tous les jours, tu vas sur linkedin.com/célébration ou même dans la partie réseau et développer son réseau ou quelque chose comme ça, tu vois en fait les gens qui sont tes contacts et qui ont des anniversaires professionnels ou personnels. Mmh. Ben, en fait, moi, ce que je fais, c'est que, entre guillemets, je souhaite l'anniversaire de ces contacts tous les jours pour ne pas en fait envoyer que des communications promotionnelles. Et il y a des personnes... ouais, voilà. Mais par contre, tu vois, l'aspect gros hacker, qu'est-ce que c'est? Le gros hacker te dit, tu dois faire à la main tout ce qui nécessite d'être fait à la main. Ce qui n'est pas fait à la main et qui n'apporte pas de valeur, et bien à ce moment-là, tu dois l'automatiser. Et c'est où sous-traiter. Et c'est pour ça, en fait, que je fais appel à une assistante qui s'appelle Sabrina, qui est à Madagascar, avec qui je travaille depuis à peu près 7 ans. Et donc, je lui donne tous les mois un forfait de 400 euros. Et en fait, avec ce 400 euros-là, en fait, elle m'accorde du temps. Elle m'accorde du temps, par exemple, pour gérer mon réseau LinkedIn. C'est-à-dire que c'est elle qui va, tous les matins, souhaiter les anniversaires à 7h, 7h30. Et elle souhaite les anniversaires, elle souhaite les changements de poste. Et c'est quelque chose qui est un peu plus intelligent que ce qu'on fait actuellement, parce que avec de l'automatisation, c'est impossible de dire tiens, voilà, telle société, parce que les sociétés sont pas forcément bien mises, il y a des inversions nom-prénom, il y a des gens qui se lancent en tant que freelance ou qui sont en recherche d'emploi ou qui sont avec Time for the Planet et qui est pas une vraie société. Donc le fait d'avoir un humain permet d'éviter ces petits trucs qui vont nuire à ton image. Donc le gros hacker fait ça, donc il automatise, mais ce qui est intéressant, où il sous-traite. Et voilà, moi j'ai préféré le sous-traiter à mon assistante parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus naturel.
Bien sûr. De même, ça te libère du temps et ça te permet en fait d'être focus sur ce que tu as développé longuement, sur la stratégie.
Exactement.
Faut aller bien au-delà du fait que ce soit uniquement des outils de production et d'automatisation. En l'absence de stratégie, quoi qu'on mette en place, en fait, il y a peu de résultats. Donc, merci
Exactement.
vraiment de l'avoir souligné. Alors, j'en profite pour saluer Christian Kotman, que tu connais. Ensuite, on a deux LinkedIn users. On ne connaît pas vos prénoms. Vous apparaissez comme ça ici sur le chat. Et puis, on a un magnifique message que je montre ici même de Stéphane. Donc, bravo Fred pour ce live ainsi qu'à Kaotar pour parler du gros hacking. Eh bien, c'est avec
Salut
joie.
Stéphane.
Et merci à vous aussi d'être présent. Et sentez-vous libre d'interagir dans le chat avec nous. On est là aussi pour répondre à vos questions.
Ouais, alors tu m'avais
Alors,
demandé. Oh, oui, vas-y.
continuons ensemble déjà sur ce principe un peu du gros hacking et de la multiplication d'outils. Est-ce que tu fais partie de cette team qui a pléthore d'outils ou qui est plutôt centrée sur deux, trois outils majoritairement?
Alors, j'essaye de réduire le nombre d'outils et j'essaye en même temps de voir s'il y a des nouveaux outils qui sortent. En fait, pour être tout à fait honnête, il y a 2, 3 ans de ça, j'avais une stack d'outils qui était raw, pléthorique. Et j'ai commencé
Classique.
petit à petit à les réduire. Par exemple, tu vois, au niveau des emails, j'avais GetResponse pour ma solution d'emailing principale. J'avais Brevo pour ma solution d'emailing secondaire. J'avais un compte Substack pour essayer de retrouver et j'avais même un Substack ou une autre outil d'emailing pour avoir en fait vraiment les inactifs, c'est-à-dire les gens qui lisaient pas mes emails dans GetResponse. Les GetResponse, c'est les plus chauds, c'est les gens qui lisent, qui ouvrent. Brevo, c'était ceux qui n'ouvraient plus, mais comme ça j'avais un nouveau canal de communication, parce que si tu changes de solution, si tu changes d'adresse IP, si tu changes de nom de domaine et d'expéditeur, c'est comme si tu reprenais en fait une nouvelle relation. Et ça, c'est super intéressant. Pour tous ceux qui ont une base email, et généralement une base email, tu as 20 à 30% d'ouverture, bah, ça veut dire que tu as à peu près 80 à 70% des gens qui ne lisent pas tes messages. Donc tous ces inactifs-là, tu les prends, tu les mets dans une autre base. Donc moi, je faisais Brevo. Maintenant, j'ai essayé aussi sur Substack, même si je trouve que la délivrabilité au bout de quasiment un an d'utilisation de l'outil quand même moins bonne, parce que Substack a des règles un peu plus larges, il se désabonne beaucoup de gens, etc., etc. Mais l'avantage, c'est que c'est gratuit, hein. Voilà. Donc, j'utilisais
Je me souviens très bien de Substack et vraiment, c'était en fait, c'était un outil avant-gardiste, hein, puissant. Hein. Il y
Ouais, bah en
a.
fait, l'intérêt, c'est que c'est fait pour les créateurs. Alors, par contre, ça a des limites. Tu ne peux pas faire d'autorépondeur, les formulaires sont pas terribles. Donc, pour moi, en fait, ça ne remplace pas encore actuellement du vrai outil d'emailing. Mais c'est très bien si tu dis, bah, tiens, ma base, voilà, je l'utilise, j'ai une base d'actifs. Et puis, tous les autres qui ne sont inactifs, que j'arrive plus à toucher, bah, hop, je les mets là-dedans ou dans Brevo. Enfin, moi, enfin, là ou l'autre, même les deux, hein, ça peut être utilisé de temps en temps, en faire un envoi par Brevo sur ces fameux inactifs dessus. Et ça, tu peux le faire simplement. Et ça, c'est vraiment un système vraiment que tu dis, mais ça, c'est ça le gros hacking. Mais le gros hacking va aller plus loin. Si tu parles en fait à chaque fois de se dire, mais qu'est-ce qui apporte véritablement de la valeur ajoutée? Sur Substack, ce qui apporte le plus de valeur ajoutée, bien sûr, c'est transférer ta base email. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est, comme dans tous les réseaux, c'est créer du contenu de l'interaction. Alors là, c'est un peu plus compliqué d'aller faire du commentaire sur les autres trucs, mais tu vois ce que je fais? Sur Substack, j'ai demandé à Claude de me créer un petit script. Je dis, Claude, je voudrais que tu me crées un script qui va aller liker les publications en automatique. Quand tu likes, après, tu fais une petite pause au bout des 25 et ensuite tu reprends. Pourquoi? Parce que comme ça, en likant les publications des personnes que je suis, eh ben, je crée un petit peu d'interaction, je crée de la visibilité, etc. C'est vrai que ça, je l'ai noté, ça a un peu d'effet, ça génère un peu des inscrits. Moyen, moyen. Je le fais de temps en temps, de moins en moins maintenant. Ce qui a vraiment créé de l'attraction, c'est en dehors bien sûr, comme je dis, de l'ajout de ta base d'inactifs, pas des désabonnés, hein, je parle bien. Et je ne parle pas non plus d'ajouter des gens de manière totalement illégale sur ta base Substack, ça c'est bien sûr interdit, c'est du gros hacking qui est pas éthique. Donc ce que tu fais, c'est que j'ai demandé en fait à mon assistante de reprendre toutes mes publications LinkedIn. Et en fait, d'aller les programmer sur Substack, sur la forme de notes. Et c'est vrai que ça permet d'avoir tous les jours, allez, peut-être pas un tous les jours, un tous les 2 jours. Tu récupères un tous les 2 jours, un abonné tous les 2 jours tranquillement. Et ça, en fait, c'est très peu d'efforts, puisqu'en fait, je file à mon assistante, elle récupère les données, et ça me permet d'avoir des résultats. Tandis que, tu vois, le petit bouton, le script qui fait le like, ça me générait quoi, les un inscrit par semaine. Donc en fait, c'est là que tu vois bien que il faut savoir manier l'automatisation à bon escient, l'utiliser au bon moment et sur les bons usages. Ça, c'est vraiment quelque chose qui compte.
Et en respectant le RGPD.
Oui, là, alors on est tout à fait dans le respect, puisque ma base, c'est vraiment ma base à moi, c'est des gens qui ont été opt-in, c'est juste des gens en fait qui lisent plus depuis quelques semaines, quelques mois, et donc moi régulièrement, je fais un petit switch. Alors au début, pour être tout à fait net, hein, je fais ce switch-là parce que je voulais rester sous la limite des 25 000 abonnés sur GetResponse. Maintenant, en fait, je fais maintenant plutôt ça pour essayer de dire, bah voilà, je vais garder vraiment ces inactifs parce que ça sert à rien de polluer ma base et payer des forfaits pour des personnes qui ne lisent plus mes messages, quoi. Et ça, c'est assez étonnant parce que tu as des personnes qui disent « Ah tiens, ça fait un petit moment que je n'avais pas reçu de message de votre part, comment ça se fait ?» Ben, hey mec, je t'ai envoyé des messages, mais c'est ton logiciel d'emailing, de messagerie qui filtrait. À l'inverse, tu as des gens qui disent « Mais hey, comment c'est que vous avez eu mon adresse email ?» Ben, en fait, c'est tout simplement parce que tu traînais des bases depuis un an, deux ans et que tu ne recevais plus de messages. Donc ça, c'est un petit tips qui est assez efficace et que je conseille à tout le monde d'utiliser.
Ok. Et donc, au niveau du RGPD, c'est bien de rappeler aussi un peu, quelque part, ces règles d'opt-in et d'opt-out.
Ah, bien sûr.
Hein, sur la prospection.
Donc, alors,
est-ce que c'est vraiment respecté ?
Alors, je dirais non. C'est d'une évidence, parce qu'en fait, la tentation est tellement grande. Puisqu'en fait, tu peux utiliser des outils je ne nommerai
tierce.
Pas, mais
oui,
tiens, voilà, qui
tierce,
permettent,
ouais.
En fait, tu dis, bah, je vais sur LinkedIn, je récupère son email, je récupère même son numéro de mobile. Sauf qu'en fait, bah, tu n'étais pas dans la légalité. La légalité pour la prospection des emails, même en B2B, dit que la personne doit être informée en fait, de la récolte de ses données et doit être en mesure de s'y opposer. Là, on est quand même dans une zone grise. Par contre, moi, ce que je m'accorde à moi, c'est me dire, les personnes qui sont mes contacts de niveau 1 sur LinkedIn, je m'autorise à leur envoyer un message, un email, parce que on n'est pas des simples inconnus, on a discuté ensemble sur LinkedIn et je m'autorise à le faire. Alors ça, c'est mon interprétation à moi, hein. C'est pas forcément l'interprétation juridique et je vous invite toujours à vérifier ça avec les personnes que votre comptable, votre avocat ou je ne sais quoi. Mais voilà, il faut vraiment se dire, mais qu'est-ce qui est dans la légalité ? Aller récupérer des adresses email de gens qui n'ont rien demandé et hop, leur balancer un message, là, tout à fait, c'est pas du tout éthique. Par exemple, moi, j'ai travaillé avec la base de données nomination, qui était une base de données, une des seules bases de données RGPD friendly en France. Et c'est vrai que bah, tu récoltais des emails. Le problème, c'est que ces personnes-là étaient sursollicitées. Et certes, t'en as récupéré quelques-uns, mais t'en as beaucoup de gens qui disaient « Mais arrêtez de me harceler, où vous avez vu mes coordonnées, etc. etc. » Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Comme je le disais, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression.
Et rappeler aussi, en fait, aux utilisateurs qu'ils ont la possibilité aussi de stopper.
Oui, bien sûr.
Ah, ils ont aussi la main.
C'est obligatoire, tu es obligé de le rajouter. Alors, tu m'as demandé dans la petite préparation de ce webinaire, de montrer quelques outils. Donc là, en fait, je voulais en fait te montrer justement l'outil que j'utilise, LinkedIn Helper. Alors, encore une fois, quand on fait du gros hacking, il faut à chaque fois mettre en balance les gains et les risques. Les gains et les risques, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand on flirte avec les limites du système, il faut être conscient que l'on peut avoir une sanction. Par exemple, là, j'utilise le logiciel LinkedIn Helper. LinkedIn Helper, comme je le disais, ça permet en fait d'envoyer des messages. Par exemple, ici, tu vois, j'ai une campagne actuellement sur le salon. Tu vois, j'ai un salon.
Est-ce que tu peux nous partager ton écran ?
Ah, je ne partageais pas l'écran là ?
Non.
Partage.
Là, ouais. C'est bon.
Ok. Donc, en fait, cet outil-là, LinkedIn Helper, alors c'est un logiciel qui est aussi en plus éthique, puisqu'en fait, il est en on-premise. Donc, ce n'est pas un logiciel SaaS qui est plus gourmand. Là, on est vraiment sur l'ordinateur en lui-même. Donc, ouais, je trouve ça un peu plus sympa. Puis, c'est moins cher. Ça coûte 10 euros par mois. Donc, c'est aussi, l'argument prix est également important. Par exemple, ici, là, tu vois, cette fameuse campagne All for Customer, le salon dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, moi, je cible véritablement des personnes, toi, je vais en cibler ici 1300 plus ici 857. Donc, tu vois, on va dire qu'il y en a 2000 que j'ai ciblé parmi mes contacts LinkedIn. Donc, vraiment, parmi le ciblage. J'en ai exclu un certain nombre, j'ai vraiment fait un gros ciblage. Moi, ce que je vous invite à faire, il y a un petit truc et astuce qui est super intéressant. Tu vois, tu vas dans ton profil LinkedIn ici, tu vas dans Préférences et confidentialité, tu vas ici dans Confidentialité des données, tu vas dans Download your data, tu cliques ici Demander tes archives et tu vas recevoir dans les 12 heures, en fait, tes archives avec tous tes contacts. Et avec tous tes contacts, après, tu vas pouvoir les récupérer sur Excel et tu filtres après sur la fonction. Moi, je filtre tous les gens qui sont responsables relations clients, etc., etc. Donc, j'ai ma liste de mots-clés. Je filtre, je les intègre ici dans les profils à traiter. J'exclus les gens qui sont pas intéressants, qui sont au changement de poste, blablabla. Parce qu'après, tu peux encore refiltrer les personnes. Et après, tu lances ta campagne. Et ici, il y a la campagne. On voit ici, alors, je pourrais lancer une séquence avec différents messages. Je peux faire 1, 2, 3 messages, X messages. Alors moi, en tant que marketing, tu vois, je me limite à un message tous les trimestres, un message tous les semestres. Alors pour être trop light, pour pas être trop justement assistant, nos commerciaux, eux, sont plutôt sur des messages avec des séquences de 21 jours pour vraiment espacer de temps. Et donc, tu vois, le fameux first name, là.
Le first name, exactement.
Voilà. Là, le first name. Et tu vois que la variation, je l'ai enlevée. Hein. Ouais. Mais autrement, j'aurais juste à faire cette petite variation-là. Je peux ajouter 2-3 variations. Et voilà, donc ici, tu as le first name. J'espère que vous allez bien, blablabla. Donc, un petit truc assez sympa, assez simple. Et donc ici, tu vois que, par exemple, sur les 800 qui ont été envoyés, j'ai eu 44 personnes qui m'ont déjà répondu. Donc là, en fait, là, je gère ça pour mon compte et je le fais également pour l'équipe commerciale. Donc, ce qui permet après de gérer les doublons et de dédoublonner, pas faire en sorte que tu balances 10 fois le message avec 10 personnes différentes qui est mieux à ton image. Encore une fois, c'est cette partie-là. Et tu as plein de petites fonctions comme par exemple…
Ça arrive. Hein. Ça arrive très, très régulièrement. Hein.
Voilà, et là ici, tu peux…
Double message, double mailing.
Ah ouais, si tu ne fais pas attention, surtout que en fait… Tous ces outils-là, comme ils ne sont pas centralisés dans le CRM, qu'ils sont en dehors du CRM, c'est pas comme des emails, tu peux pas gérer la sur-sollicitation, etc., etc. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc c'est voilà. Et tu peux même, par exemple, retirer les invitations qui ont été envoyées depuis un certain temps. Tu peux gérer de l'invitation automatique. Enfin bref, par exemple, tu vois là ici, j'ai une petite fonction qui me permet d'inviter les gens à suivre la page entreprise. Donc en fait, ils vont aller suivre la page entreprise de la boîte. Alors, moi, je trouve que c'est le profil qui compte le plus sur LinkedIn. Oui. Néanmoins, voilà, il y a toujours des objectifs d'avoir plus d'abonnés sur la page entreprise. Mm-hmm. Et ici, tu vois, j'ai ma fameuse campagne où j'invite les responsables de la relation client, responsables expérience client. Et dedans, j'ai plein exclus parce que c'est pas ceux qui m'intéressent. Donc, tu vois, c'est cet aspect-là qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment aller cibler sur la bonne personne. Et ça compte beaucoup parce que, comme je le disais, moi, dans mon domaine, il y a peu de cibles. C'est pas de la terre brûlée où tu vas aller balancer des messages et après, tu t'en fous. Mais par contre, comme je le disais, attention, parce que de gros hacking, c'est toujours... Il y a une partie du gross hacking qui est tout à fait éthique, c'est ce qu'on appelle le white hat gross hacking. C'est par exemple faire de l'A/B testing, comme je l'ai fait là, sur des emails ou changer de solution d'emailing. Ça, c'est du white hat, tout le monde peut faire. Du gray, c'est quand tu es à la limite, par exemple, là, j'utilise cet outil-là, mais qui est interdit par LinkedIn. Et donc, en fait, il peut y avoir des risques de suspension parce que si tu dépasses les 120 messages, 150 messages par jour, LinkedIn, il dit « Hey !» Qu'est-ce que tu fais? C'est interdit. Je bloque ton compte et ça m'est arrivé très régulièrement d'avoir mon compte bloqué pendant 3-4 jours, voire même plus. Donc, il faut faire attention. Et après, tu as le black hat gross hacking qui sont les actions totalement illégales qui sont, par exemple, allez, je vais récupérer une base d'emails que j'ai récupéré ou de 06 que je vais récupérer et que je vais balancer du message. Donc, ça, c'est interdit. Et même quand tu fais du gray hat, il faut faire attention. Par exemple, tu vois, j'avais à l'époque deux profils LinkedIn. J'avais mon profil actuel qui était arrivé à 25 000 personnes et j'avais mon profil, j'ai créé un profil spécial relation client où je faisais que de la com relation client parce que c'est vrai que tu m'avais dit qu'on avait échangé. Fred, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que tu parles de gross hacking, tu parles de marketing, tu parles d'expérience client, qu'est-ce que tu fais exactement? Et c'est vrai que je voulais pas mélanger les gens et j'avais deux profils. Sauf qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a dénoncé. Alors, je pense que c'est un concurrent parce que j'avais un profil qui faisait vraiment beaucoup de vues, beaucoup d'interactions, etc., etc. Donc, j'avais, je crois, 5 à 10 000 personnes. Donc, profil dénoncé, paf, LinkedIn qui me dit tut tut tut, c'est fini, vous avez plus le droit à ce profil là, et donc en fait mon profil a été shooté. Voilà, j'ai récupéré une partie des contacts, mais pas tout. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que en gros hacking, il faut vraiment faire attention à ce que l'on fait et toujours peser les menaces opportunités. Et voilà, et c'est pareil, quand tu utilises l'intelligence artificielle, il faut faire attention à utiliser les bons outils, les bons leviers.
Alors, en parlant de ça, je rebondis là-dessus. Mm-hmm. Comment, toi, tu utilises l'IA ?
Alors, non, je n'ai pas, en fait, un usage qui va être hyper technophile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne suis pas développeur à la base. Et c'est vrai que pour moi, l'IA, c'est juste un moyen d'être plus efficace. Et je cherche vraiment cette efficacité maximale qui est la philosophie même du gros hacking. Et donc, quand je peux essayer, quand je peux faire quelque chose avec l'IA qui ne nuit pas à la relation client, à l'authenticité, à la sincérité, etc., etc., je le fais. Par exemple, là, tu vois, je suis en train d'écrire un livre. J'ai écrit un livre sur le business. Et en fait, ce livre-là, il a besoin d'être vraiment très synthétique, très carré. Et il y a pas mal de textes que je ne peux pas refaire avec l'IA parce que je ne peux pas avoir cette simplicité, cette expérience, etc., etc. Par contre, là, je suis en train de travailler avec un spécialiste de la vente de livres sur Amazon. Lui, il utilise l'IA, mais pour de la rédaction, je ne dis pas automatisée, mais quasi automatisée, avec très peu de supervision. Et en fait, ce livre-là, par contre, il sera écrit, je pense, à 60-70%, je pense, avec l'IA. Je vais en faire une relecture, je vais faire tout ça, mais voilà. Donc, en fait, pour moi, l'IA doit être un outil qui va permettre d'être plus efficace. J'essaye de travailler de manière intelligente. Par exemple, tu vois, quand je fais la rédaction de posts LinkedIn, j'essaye quand même de garder la main dessus. Le problème, c'est que si tu deviens trop dépendant de l'IA, tu vas en fait, après, ça perd tes facultés. C'est comme en fait le calcul de tête. Moi, à l'époque, je faisais des calculs de tête sans problème, division, multiplication, etc., etc. Maintenant, tu me demandes de faire une division et de trouver le montant avec deux chiffres après la virgule. J'ai beaucoup plus de difficultés qu'auparavant. Donc, il faut faire attention à toujours écrire un petit peu. Moi, j'utilise l'IA pour quelque chose qui va m'apporter de la valeur. Merci, Serge. Et donc, j'essaye vraiment d'apporter de cette valeur ajoutée et d'apporter mon petit grain de sel. Mmh. Quand je fais, par exemple, de la rédaction, j'ai différents niveaux. Par exemple, tu vois là, pour l'écriture de mon bouquin, j'ai revisité des articles que j'ai cités dans le livre parce que tu peux, sur un bouquin, t'es limité en place. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes articles à moi et j'ai demandé à l'IA, tiens, ajoute-moi un prompt. Parce qu'en fait, sincèrement, l'intelligence artificielle est devenue tellement performante que tu n'as plus, tu peux avoir énormément de bonnes réponses, tu peux avoir un bon sujet. Par contre, ce qui fait la différence, c'est les exemples, c'est l'adaptation, c'est de savoir quand utiliser telle technique, etc., etc. Donc, dans ces articles-là, j'ai ajouté un prompt. J'ai parfois aussi dit, tiens, par exemple, j'ai écrit un article sur les merci il n'y a pas très longtemps et je crois que je lui ai donné une base, en fait, de notes que j'avais faites. Et donc, je lui ai dit, écris-moi un article. Et c'est vrai que l'article était super sympa, mais il manquait cet aspect humain. Il manquait cette authenticité. Et donc, j'ai rajouté des captures écran, j'ai rajouté des textes. En fait, l'IA va me permettre de faire, au lieu d'un article un peu superficiel comme je l'aurais fait auparavant, ça me permet de faire un article qui est bien meilleur parce que je rajoute du prompt, je rajoute de l'FAQ, je rajoute des définitions, je rajoute des concepts que je n'aurais pas pu faire moi-même. Alors après, ça ne suffit pas encore. Puisqu'en fait, si tu produis un article et que tu ne vas pas y amener du trafic, si tu ne vas pas emmener des liens par rapport aux différents, ça ne sert
bien
à rien.
Sûr,
et c'est pas contextualisé. Voilà. Donc, il faut véritablement travailler là-dessus. L'IA peut t'aider à faire ton travail, mais il ne fera pas en entier. Par contre, l'IA peut faire des choses où tu n'apportes pas de valeur. Par exemple, là, je l'ai arrêté de le mettre en place, mais je l'avais mis en place pendant plusieurs mois, un chatbot qui, en fait, allait puiser directement dans la base de connaissances de mes articles de blog. Et comme ça, les gens qui voulaient avoir des réponses sur comment on fait pour faire ceci, comment on fait pour faire cela, ils avaient leurs réponses directement. Donc, ça permettait d'avoir un premier niveau de réponse. Et bien sûr, le bot était conçu pour aller dire si vous voulez plus d'informations, vous pouvez le faire. J'ai un autre exemple, par exemple, pour Eloquent. Nous, on travaille avec beaucoup de clients, des grands comptes. En fait, leur problème, c'est que ils peuvent répondre qu'aux clients, en fait, dans les heures d'ouverture du bureau, mais pas en dehors des heures d'ouverture du bureau, parce que les gens sont rentrés chez eux. Pourtant, tu as des entrepreneurs, il y a des gens qui veulent discuter avec toi. Donc, dans ces cas-là, tu leur mets un callbot qui va permettre de répondre en dehors des heures d'ouverture. Et par exemple, on l'a mis en place à la CIPAV, et à la CIPAV, 75% des appels qui sont effectués en dehors des heures d'ouverture sont traités de manière automatique. Il n'y a que 25% où les gens disent « Ah ben oui, je veux parler à une personne, rappelez-moi demain. » Donc, l'IA va permettre en fait de traiter de manière automatique des informations. Mais encore une fois, attention, parce que si tu traites de manière trop automatique une demande, qu'est-ce qui va se passer? La personne va se dire, c'est bon, j'ai plus besoin d'informations, j'ai plus besoin de discuter, j'ai plus besoin de lien, et tu perds une occasion de vendre. Donc, il faut vraiment essayer de mesurer ces éléments-là. J'utilise beaucoup l'IA, par exemple, pour la création de visuels. J'adore ce petit outil napkin.ai qui permet de faire des petits schémas qui va transformer un concept en une image. La génération d'images par l'IA, je le fais également parce que j'aime bien avoir une petite image BD, parce que je dis toujours une image vaut 1000 mots. Et parfois, une vidéo vaut aussi 1000 mots, 1000 images. J'utilise par exemple Opus Clip, qui est un super outil qui me permet en fait de découper une grosse vidéo en plein de petites séquences. Parce que c'est vrai que, sincèrement, même moi je le dis, parfois c'est chiant quoi. C'est chiant de devoir lire une vidéo de une heure. Alors, je le mets en accéléré. Moi, j'aime bien écouter en accéléré des vidéos en 1.5 pendant que je fais autre chose. Mais des fois, il y a des trucs où les gens, ils discutent, ils racontent leur life. C'est pas intéressant. Donc, ce que je fais, j'utilise Opus Clip pour découper ça en mini-séquences. Mmh. Mais ça ne remplacera pas une grosse séquence. Pourquoi? Parce que la séquence qu'on est en train de faire ensemble, là, qui va durer une heure ou peut-être un peu plus, c'est là, en fait, que tu as ta valeur. C'est là que tu comprends les choses. Certes, tu peux le découper en mini-séquences et les gens vont récupérer un petit bout, mais ils ne vont pas avoir toute l'information.
À condition d'avoir un fil rouge, hein, Frédéric.
Oui,
aussi,
bien sûr.
Hein.
C'est vrai.
On écoute tous, on vienne tous des vidéos où ça part aussi quelque part un peu dans tous les sens et on se demande finalement, c'était quoi le sujet, central. Donc oui, quand on a un vrai fil conducteur, un fil rouge, en fait, ça vaut le coup de prendre le temps d'écouter du début à la fin, en effet, quand c'est
ouais, mais,
quand c'est bien
mais parfois aussi, justement, là, tu vois, j'ai utilisé Notebook LM, qui est vraiment un très bon outil d'IA, pour transformer un article de blog et même mon bouquin en un résumé. Et sincèrement, des fois, tu te dis « Waouh !» c'est pas mal, quoi, pour un premier niveau, tu vois, mon bouquin sur la déconsommation.
Non, mais des fois, c'est bluffant.
Ouais, et puis les gens, en plus, comme c'est en mode question-réponse, c'est vraiment plus agréable d'écouter ça quand t'es d'un air distrait. Par contre, t'as pas cet aspect humain, t'as pas l'authenticité, t'as pas ces anecdotes, t'as pas ces retours d'expérience. Ça reste en fait un premier niveau qui reste assez neutre, mais qui suffit pour un premier niveau. Mais par contre, si tu veux aller creuser ailleurs, aller chercher de l'info, c'est un peu différent. Alors, au niveau des IA, tu m'as parlé aussi des questions. Au niveau des IA, qu'est-ce que j'utilise? Alors, c'est vrai que pendant de longues années, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT parce que pour moi, c'est un 4x4. Tu peux l'utiliser partout.
Comme tout le monde.
Voilà. ChatGPT, pour l'instant, il reste le moyen, enfin, le niveau moyen standard que tu peux utiliser un peu pour tout. Moi, je l'aime bien pour, par exemple, faire du copywriting. Je trouve qu'il est pas mal. Pour les images, c'est le meilleur. Si on veut réaliser des images, des BD, des illustrations, c'est celui qui conserve le mieux les textes, qui trouve mieux l'idée avec ton concept. Sincèrement, c'est bien meilleur que tous les autres, même Gemini avec Nano Banana 3 Pro, hein, qui est la version payante, hein, qui n'est pas la version gratuite, et ben, il ne fait pas aussi bien que ChatGPT Image. Donc voilà, moi, je recommande ça pour Image, ChatGPT. Tu peux en plus créer plusieurs comptes. Moi, j'ai deux comptes de ChatGPT pour créer des images si j'ai besoin de le faire. Pour le standard, donc, avec le courant, tu peux utiliser ça. Par contre, si tu veux de la créativité, par exemple, si tu veux travailler sur des articles de blog, des titres de webinaire, des objets d'email, etc., ça sera DeepSeek, qui est l'IA chinoise, qui est vraiment la plus créative. Elle arrive à trouver des trucs qui sont intéressants. Alors, par contre, et encore une fois, c'est l'humain au départ, l'IA au milieu, l'humain à la fin. C'est-à-dire que...
Bien sûr.
Tu dois, quand DeepSeek te donne des titres, parfois il te donne des trucs mais qui sont super sympas, sauf que ça n'a pas à voir avec ton sujet. Et parfois, c'est comme les images, tu peux te laisser détourner de ton sujet. Donc, même si le titre est super, il faut que tu le travailles. Et c'est vrai que souvent, moi, avec ma collègue Chantal, on demande en fait à l'IA de générer 60 titres avec des titres jeux de mots, des titres intrigants, des titres surprenants, des titres qui font réagir, des titres professionnels. Enfin, tu demandes différentes catégories, 10 de chaque, et il te les sort. Et après, tu dis, ah non, moi j'aime bien ça, j'aime pas ça, ta 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 ta. Et généralement, on finit par créer nous-mêmes le nôtre à partir des idées qu'on a prises. Par exemple, la dernière fois...
Je trouve ça super amusant, en fait. Il y a un côté ludique aussi dans cette démarche.
C'est le problème des brainstorming. Pendant de longues années, j'ai travaillé dans une très grande multinationale. On était 3000 en France. Et donc, moi, j'avais besoin de créer des produits. J'étais product manager. Et à chaque fois, je faisais une séance brainstorming. Donc, une séance brainstorming, je rassemblais 6 personnes et on avait les post-it. On disait, bah voilà, trouve-moi des noms de produits, machin, ta, 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 ta. Et en fait, la plupart des gens, ils viennent sans réfléchir. Sauf que le brainstorming, ça marche pas comme ça. Le brainstorming, tu peux pas avoir de la créativité sous pression. La créativité se fait avec le temps. Donc, il faut réfléchir un ou deux jours avant, venir avec des idées, brainstormer et ensuite re-réfléchir après un ou deux jours.
Oui, bien sûr, laisser infuser.
Oui. Voilà. Et le problème de ce brainstorming-là, c'est que si tu fais en session, ça ne donne rien. Avec l'IA, tu rebondis. Et ils ont une créativité qui est assez énorme. Alors parfois, toi, avec ma collègue Chantal, la dernière fois, on a voulu trouver un titre pour un webinaire pour le salon, enfin, une conférence sur le salon, et c'est vrai que c'était nul. On a essayé une fois, c'était nul. On a essayé une deuxième fois, 3 jours plus tard, c'était nul. Et au bout de la quatrième fois, on a réussi à trouver des idées parce qu'on a redonné des exemples. À chaque fois, en fait, on dit, tiens, des trucs comme ça, tu prends celui-là, mais un peu mieux, moins ça, plus ça donne cette notion. Parfois, il faut mieux repartir totalement à zéro. Et là, ça marche bien. Donc, le titre qui est quoi, tempête émotionnelle, ta 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 ta. Donc, le début vient de DeepSeek, la fin vient de nous. Donc, il faut toujours se dire humain au départ, IA et humain à la fin. Donc, après, au niveau des IA, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau de tout ce qui est script, dev et prompt. Alors, les modèles de prompt sont vraiment bien meilleurs chez Claude. Gemini est pas bon du tout pour, je trouve, pour ses prompts. Dégueulasses, ils sont pas beaux. En plus, Claude te propose d'avoir une version locale, je trouve qu'elle est assez sympa. Ce qui est bien chez Gemini, c'est qu'il est capable d'analyser de manière globale un texte. Par exemple, j'ai fait une formation il y a
sur la vue d'ensemble, je suis d'accord avec toi.
Par exemple, toi, j'avais une formation sur l'emailing et l'IA. Et je devais faire une formation pendant une matinale avec des entrepreneurs. Et donc, j'avais fait tout mon cours de formation. Et au début, j'avais mis attention à la délivrabilité, ce que je t'ai dit là, change de nom de domaine, travaille sur les DKIM, sur toutes les démarques, etc., etc. Et change de solution quand il faut, blablabla. Puis donc, j'envoie mon support, paf, je l'envoie à Gemini, je l'envoie à Claude. Mmh. Et ce n'était pas la même analyse. Gemini fait une analyse globale et dit, ah, commence plutôt par ça, tu commences trop tôt avec des trucs trop techniques, mets-le à la fin. Claude, lui, a une analyse par morceau. Il t'a dit, ah, sur cette slide-là, tu devrais plutôt faire là-dessus, sur cette slide-là, plutôt là-dessus. Bien sûr, il fait l'analyse globale, mais il va être beaucoup plus détaillé par défaut. Tandis que Gemini, tu peux lui demander, analyse-moi cette slide, machin. Mais en fait, Gemini essaye de gober tout, clac, et il essaye de trouver une référence, tandis que Claude, lui, va te prendre des petits morceaux et va te l'analyser mieux. Donc, les deux sont vraiment
complémentaires. Claude permet vraiment d'approfondir son analyse.
Ouais, tout à fait. Alors après, si tu veux analyser vraiment beaucoup plus précisément, tu peux utiliser Google Notebook LM, qui est assez puissant parce qu'en fait, tu peux créer donc ces fameuses petites vidéos résumées, de l'audio et des infographies. Alors le souci, encore une fois, c'est que ok, tu vas créer une vidéo qui va rassembler par exemple ton rapport, ton PDF, etc., etc. C'est un nouveau moyen de consommer de l'information. Le problème, c'est que si tu mets que ces trucs-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas avoir un contenu qui va ressembler à tout le monde. C'est pour ça que les contenus rédigés par l'IA ou résumés par l'IA ne doivent pas être systématiques. Parce qu'autrement, mais pourquoi je t'écouterais toi? C'est un résumé IA, quoi. Donc, il faut que tu aies cette partie authenticité, exemple, qui ressorte. Et c'est pour ça que j'essaye de faire autre chose. Par exemple, tu vois, pendant très longtemps, ce que je faisais, c'est que j'écrivais un article de blog. Et une fois que j'avais fait l'article de blog, je faisais ce qu'on appelle un screencast. C'est-à-dire que je prenais mon article de blog, je lisais à l'écran, ce qui me permettait d'avoir une vidéo pour YouTube et ensuite un audio pour mon podcast. Et ce qui était intéressant, c'est que dans cette partie audio, je ne lisais pas l'article. Je m'en inspirais et je racontais d'autres choses. Je faisais des anecdotes. C'est-à-dire que dans un petit temps, je mettais énormément d'informations parce que, tu vois, il faut être respectueux des personnes avec cet infocalypse. Il faut véritablement se dire que les gens ont très peu de temps. Donc, tu ne dois pas les saouler avec des choses qui n'ont pas de valeur. Il faut apporter un maximum de valeur ajoutée en un minimum de temps. Et c'est ça, en fait, qui va faire la différence. En même temps, tu vois, c'est ces contenus courts qui sont très concentrés, mais en même temps, ces contenus longs, tels que cet échange, va te permettre de dresser cette image d'expertise. Dans Google, sur YouTube, les vidéos qui vont sortir le mieux, c'est les vidéos longues. Alors bien sûr, avec les shorts, tu fais 300, 400, 500, 1000 vues à court terme, mais c'est vite oublié. C'est des vues, en fait, c'est du
oui, snack, c'est la consommation, ouais, voilà. C'est la content, c'est la consommation éphémère.
Voilà,
comme TikTok d'ailleurs.
Voilà, si tu crées du contenu sur la durée, dis-moi qu'est-ce que tu as vu comme vidéo sur TikTok hier ou sur Instagram. Est-ce que tu t'en souviendras? Pas sûr. Tu as vu un créateur, tu ne te souviens même plus de son nom, tu ne sais pas qui c'est, parce que tu n'as pas eu cette connexion émotionnelle. C'est pour ça que le podcast est assez intéressant pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de mon podcast, alors que je ne fais très peu de podcasts, à part cette interview qu'on va faire ensemble, mais parce que ça les a marqués, parce qu'ils sont avec toi, parce qu'ils t'écoutent dans ton transport. Donc en fait, le contenu long n'est pas mort. Et quand tu vas sur YouTube, tu sais très bien que les vidéos qui vont ressortir en premier, ce n'est pas la vidéo TikTok de 30 secondes qui va ressortir, mais c'est la vidéo la plus complète qui abordera le sujet et qui va être la plus concise possible parce qu'elle va aller à l'essentiel. Donc, moi, une de mes meilleures vues sur YouTube, c'est une vidéo sur comment gérer un client mécontent qui dure 10 minutes. Ce n'est pas un short, ce n'est pas un truc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo de 10 minutes est un extrait d'une vidéo de 45 minutes. C'est-à-dire que c'est Michel Boyer qui a fait une interview, qui est formatrice en relations clients, qui m'a fait une vidéo de 45 minutes où elle raconte un peu sa life et tout ça, pourquoi elle a fait ci, ta, ta, ta. Et après, j'ai extrait pour en faire une vidéo de 10 minutes, qui est le format idéal, parce que le format idéal, c'est vrai que pour les podcasts, tout le monde dit que c'est entre 10 et 15 minutes parce que tu donnes un max d'infos en un minimum de temps. Et donc, en fait, c'est la vidéo de 10 minutes qui est la plus importante. En même temps aussi, si tu veux réussir à faire des bonnes vidéos, ben parfois, tu dois faire du short avec des petits trucs et des petits sujets. Et c'est vrai que autant une vidéo YouTube qui n'est pas très, très, comment dire, dynamique ou qui n'a pas un sujet qui est vraiment très recherché, va faire quelques centaines de vues. C'est ça aussi qui est le sujet sur YouTube, qui n'est pas, moi, ma plateforme préférée, hein, mais ce qui marche bien, c'est donc ces sujets intemporels où tu vas straight to the point et tu donnes vraiment la solution, ou alors, à l'inverse, c'est le contenu chaud. C'est-à-dire que tu vas, une de mes meilleures vidéos, c'est des vidéos de tuto avec l'IA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais donner un point de détail sur, par exemple, là, j'ai une vidéo, c'est comment créer une image avec des célébrités sur Grok. Et cette vidéo-là, elle dure, mais c'est tout con parce que, en fait, il y a juste à cliquer sur créer une image, fais le truc, machin, je donne un ou deux exemples. Mais comme elle est très courte, très résumée et qu'elle s'adresse à un contenu chaud, une recherche d'actualité, bam, ça marche très bien en termes de vues. Voilà.
Alors, on va en profiter, on va faire donc un focus, là on va passer en fait sur la partie quelque part clip que va retenir je pense notre audience. C'est la partie de tes hacks préférés que je t'invite à nous présenter. Voilà, exactement.
Alors oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je te disais, je pense que le temps des personnes est de plus en plus précieux et ça va être ce qu'on a de plus en plus précieux. Et donc, en fait, tu dois essayer de délivrer un maximum d'infos en un minimum de temps. Mmh. Et c'est pour ça, en fait, j'ai réservé cette fin de session à essayer de vous donner cet hack préféré, quoi. Alors, le premier, vous l'avez vu juste auparavant, c'est la base LinkedIn. Tu vois, c'est le petit outil LinkedIn Helper que je te présentais auparavant. Le problème, c'est que la majorité de tes contacts LinkedIn ne voient pas tes contenus. Une publication, elle fait 500, 1000, 2000, 3000 vues. Quand tu as fait 3000 vues, tu es content. Si tu as 10 000 contacts, tu sais très bien que les 3000 vues, c'est certainement pas tes 10 000 contacts. Donc, en fait, il faut envoyer tes contenus aux bonnes personnes et, comme je disais, événementialiser. Pour cela, moi, j'utilise plusieurs outils. Alors, j'ai un compte Wallaxy, j'ai un compte LinkedIn Helper et maintenant, j'aime bien un petit outil qui s'appelle Canbox puisqu'en fait, il est beaucoup plus simple. LinkedIn Helper, l'outil que j'utilise, il est bien, mais il est trop technique. Je l'ai présenté à plusieurs personnes qui m'ont dit « Non, mais Fred, c'est trop compliqué. » Donc, LinkedIn Helper, logiciel plus technique. Si vous voulez des outils plus simples, utilisez Wallaxy ou Canbox, qui sont de très bons outils. Mm-hmm. Et en fait, ça va permettre vraiment de pousser des messages et d'apporter de la valeur. Le but, c'est pas de spammer. C'est moi, ma volonté, c'est de dire, je t'apporte de la valeur, quoi. Je t'apporte un cas d'usage, je t'invite à un événement, je te fais un résumé de webinaire, etc., etc. Voilà. Et on voit bien que je découvre votre invitation, je suis super gentil. Est-ce que je pourrais avoir tel truc, quoi. Donc, c'est vraiment important. Donc ça, c'est première chose, cet outil-là. Deuxième hack, en fait, c'est, encore une fois, je le dis toujours, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et c'est vrai que tu as des petits outils qui sont assez sympas, qui permettent en fait de créer simplement des images. Alors, auparavant, c'était payant, maintenant, c'est gratuit. Par exemple, tu vois cette image-là qu'on a vue ici, là, c'est pas moi, même si c'est moi. C'était créé par un outil de génération d'images par l'IA. Et là, maintenant, tu as donc ici Google Gemini qui a mis un petit outil qui est vachement sympa, qui te permet en fait de réaliser en 3 secondes une image de toi de manière professionnelle. Donc, tu récupères une photo, peu importe laquelle. Allez, hop.
Ouais, donc je vois là, t'es sur Picture Me, ok?
Ouais. Donc, Picture Me, donc tu choisis ta photo. Alors, elle est où, ma petite photo là? Hop. Alors là, je crois qu'il faudrait que je zoome un peu ou je dézoome. Donc voilà, Picture Me, c'est un service gratuit de Gemini, hein. Alors, on va dire que je vais prendre ici, allez, je vais prendre ma photo qui est là. On va voir si va réussir à me retrouver. On va voir. Et donc là, je choisis maintenant le profil headshot. Donc, je choisis Frugal Gaze, Slide Dangle, parce que de face, ce n'est pas très beau. Et là, je demande de générer les photos. Donc là, bon, on va laisser un petit peu tourner. Hein. Il faut quelques minutes pour que ça arrive. Alors, je crois qu'il doit être en train de générer. Voilà, donc on va le laisser un petit peu tourner. Et en fait, ça te permet comme ça d'avoir des petites photos professionnelles. Alors, ça sert pour ton profil LinkedIn, mais ça sert également pour tes emails. Par exemple, là, tu vois, moi, j'utilise mes petites photos quand je fais un emailing et j'ai besoin en fait d'avoir un truc un peu plus long, un peu plus sympa. Et ce qui est intéressant avec l'IA comme Google Nano Balana ou autre, c'est que tu peux lui dire bah, prolonge-moi la veste ou parfois tu dis bah, une image de pied en cap ou des choses comme ça. Et ça te permet en fait de prolonger des images qui sont beaucoup, beaucoup plus adaptées en fait pour des emails. Donc beaucoup plus sympa. L'acte numéro 3, là, ce n'est pas un hack qui va utiliser l'IA, c'est la visibilité via les interviews d'experts. Alors, tu vois, c'est un petit peu ce qu'on fait là actuellement. Moi, en fait, mon enjeu, c'était il y a 4-5 ans de ça, lorsque j'ai intégré le secteur de la relation client. Donc, moi, j'étais plutôt dans le domaine de la comptabilité, de la gestion et le CRM. Et je devais, en fait, gagner en visibilité sur un secteur que je ne connaissais pas, où j'étais inconnu. Et le meilleur moyen, c'est d'aller chercher la visibilité là où elle est. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé des experts dans le domaine de la relation client. J'ai dû faire une vingtaine d'interviews ou même un podcast ou un live comme on le fait ici, ce qui te permet en fait d'être reconnu comme un expert, enfin d'avoir un petit peu de la crédibilité des autres. Et par exemple, lorsque j'ai sorti mon bouquin sur la déconsommation, eh ben, j'ai commencé à interviewer quelques experts ici, comme Laurent Tessot, Vincent Mignerot, qui ne sont pas des leaders numéro un, des grosses stars. J'aurais bien aimé interviewer Jean-Marc Jancovici, mais les stars en fait sont un peu trop débordées, pas faciles à obtenir. Par contre, tu as en fait entre guillemets des challengers qui ont une audience, qui ont une voix particulière et qui en fait font que tu vas avoir de la visibilité. Et si je vais sur YouTube, les vidéos avec ces experts-là sont parmi les vidéos qui génèrent le plus de vues sur mon compte, quoi. Donc en fait, là, tu vas capter en fait des gens qui sont intéressés par cette cible-là. Et tiens, Vincent, je l'ai interviewé par plus tard que hier, donc j'ai mis en ligne la vidéo ce matin. On va taper Laurent Testot. Voilà, qui est passionnant. C'est un mec qui est spécialisé dans l'histoire. Donc là, 600 vues, 2800 vues. Donc tu vois, c'est des petites vidéos qui ne te prennent pas beaucoup de temps. Alors j'ai fait aussi du short. Tu vois, on peut faire aussi du short, on peut faire des différents sujets. Donc tu vois, aller capter comme ça de la visibilité auprès d'experts, c'est un moyen d'être reconnu dans un secteur d'activité. Donc moi, je recommande véritablement de le faire. Après, tu peux faire de l'interview écrite. Ça, je le fais de plus en plus. Quand, en fait, j'ai pas le temps de faire l'interview vidéo parce que là, ce qu'on a fait ensemble, l'interview vidéo, tu as un travail de préparation, tu as une heure et demie de live, c'est quand même du temps, c'est d'énergie, tu n'as pas forcément le temps, surtout que là, moi, j'ai beaucoup d'actualités. Ce que tu fais, c'est que tu transformes ça en une interview écrite, avis d'expert, tribune, et en fait, tu as une structure, tu dis voilà ce que vous pourriez vous présenter, pourquoi il faut s'intéresser à ce sujet, comment faire pour, un cas pratique. Et comment faire pour aller plus loin? Là, c'est la partie prestation. Et moi, en fait, je le fais encore très régulièrement là-dessus sur mon blog, puisqu'en fait, ça me permet comme ça d'avoir des contenus experts avec une faible, avec un faible travail, puisqu'en fait, ce n'est pas du contenu IA, c'est vraiment du contenu qui va être comment dire, rédigé par d'autres personnes. Qui, par exemple, là, ici, il y a.
Là, c'est du contenu authentique.
Voilà, tout à fait. Et surtout, c'est des. Alors, après, maintenant,
C'est pas la restitution où tu vas demander à l'IA
de faire un résumé, bah oui, mais.
de simuler en fait
Ouais,
l'un
là,
des
c'est pas du. Ouais.
experts
Voilà,
et de
donc.
rédiger
Ouais,
une
bah alors
interview.
maintenant les gens ont un peu trop tendance à utiliser l'IA pour rédiger des contenus, donc c'est moins authentique que ça l'a été, mais ça te permet d'avoir des contenus qui sont vraiment totalement différents. Pareil, là, tu vois, je te parlais tout à l'heure de mon article sur le pouvoir des merci. Donc, cette image, bien sûr, générée par l'IA parce que le bouquin, je l'avais eu en PDF. Et donc, là, ici, une partie du contenu vient de l'analyse, mais après derrière, toi, ça c'est mon analyse à moi, c'est mes textes à moi. Ici, j'ai intégré une vidéo qui vient d'ailleurs. Là, en fait, c'est toi, tu vois, c'est Frédéric Canevet, c'est bien moi. Donc, en fait, ça crée cette authenticité, ça crée cette valeur ajoutée que l'IA va permet d'avoir une base de
Je
travail.
reconnais d'ailleurs le style que tu adoptes souvent, le style comics. Donc ça,
Ouais, j'aime beaucoup.
c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Ouais.
Ouais, parce que je pense qu'il faut être, enfin, je pense qu'il faut, faut pas se prendre trop au sérieux. Les gens en ont
C'est
marre.
ça, exactement.
Par exemple, sur LinkedIn, tu vois, un de mes premiers messages quand la personne me demande en invitation, je leur dis, bah tiens, si vous voulez vous distraire, je vous ai fait une BD d'expérience client, parce que les gens, et comme tu disais, leur temps est précieux. Ils ont, qu'est-ce qu'ils en ont à faire d'un livre blanc de 80 pages, quoi? Ça les intéresse pas, un livre blanc de 80 pages. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui va être très précis, pointu, et qui va leur apporter un maximum de valeur en un minimum de temps. Donc, le temps des personnes est précieux. Voilà, les interviews d'experts, tu peux le faire donc bah, essayer. Donc tu vas faire un article de blog que tu vas relier sur LinkedIn. Tu peux aussi prendre des capsules vidéo d'une interview que tu vas transformer en fait un article de blog. Tu peux faire des interviews d'écrit, enfin de livres écrits. Voilà. Donc l'interview ou le résumé de livre, des choses comme ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes.
Mais est-ce que tu as besoin de l'autorisation?
Alors, quand je fais des interviews, c'est des gens avec qui j'ai discuté, forcément. Pour là, le livre, pareil, c'était des gens avec qui j'ai discuté. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, ici, hop, je vais essayer de te retrouver un article. J'ai dû faire un résumé d'un livre, je ne sais plus lequel. Voilà, il faudrait que je trouve un livre. En fait, c'est vrai que les IA maintenant sont tellement doués avec Gemini. Alors c'est pas voilà, non c'est pas voilà, Miracle Morning. Tu vois, c'est un bouquin que j'ai lu il y a un paquet de temps.
Ah,
Et
c'est un
ben j'ai
classique
demandé. Voilà,
en développement
exactement.
personnel.
Voilà, j'avais lu le bouquin, mais putain, faire un article de blog là-dessus qui résume les grandes idées. Bon, bah voilà, je lui ai dit, bah, résume-moi les grandes idées, la méthode Savers, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'après, j'ai rajouté quelques petites infos, mais voilà, c'est pas le, je voulais pas perdre trop de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que en revanche, ces contenus-là sans saveur qui n'apportent pas de valeur, ben, tu peux les utiliser pour faire une publication LinkedIn et là générer du trafic via ta publication et dire tiens, si tu veux en savoir plus, tu vas sur mon blog. Donc ça peut être une stratégie, mais ce genre de contenu-là sans valeur ajoutée par rapport à un contenu IA ou à un résumé ne géreront pas de trafic en plus sur ton site internet parce que Google il voit que les gens ne restent pas longtemps, que tu n'as pas apporté du trafic, qu'il n'y a pas des liens internes, etc., etc. Donc ça va pas forcément donner grand-chose. Comme je disais, l'intérêt ça peut être de dire tiens, il y a un bouquin super, j'en fais un petit résumé. Tu peux aller sur mon bouquin là. Là, tu vas prendre du trafic que tu ramènes après sur ton site à toi pour générer de la liste. Mais autrement. J'ai fait un test, hein. J'ai demandé à mon assistante d'aller sélectionner tous les livres qui parlaient du business. En fait, je lui ai dit, bah, tiens, voilà, j'avais mon top 100 ou top de 250, toi, comparatif CRM, voilà. Je lui ai dit, bah, voilà, prends tous ces livres, il y a le personnel MBA qui existe également, et je lui ai dit, bah, voilà, fais-moi un résumé de tous ces livres-là. Donc, elle a pris tous les livres. Sur la création de business. Alors, je crois que c'était peut-être pas sur celui-là. Ah non, c'était sur un autre site. Alors, j'ai dû faire sur. Ah non, voilà. Si, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je lui ai dit sur ce site démo de me résumer tous les livres sur être un bon manager. Voilà. Gros, bon entrepreneur. Et donc, en fait, je lui ai fait une liste. Je suis allé sur LinkedIn. Et donc, elle m'a fait tout ça à chaque fois un petit résumé. Ça, c'est fait 100% à l'IA. eh ben, ça génère zéro trafic, ou presque. Pourquoi? Parce que il y a des contenus qui sont plus complets, qui existent mieux là-dessus. Toi, c'est assez court. S'il y avait une chance que ça soit visible dans les résultats, il aurait fallu que ce contenu-là apporte donc le résumé, mais vraiment des détails, plus d'informations sur le bouquin, etc., etc. Là, en fait, tu
Bien
vois,
sûr, c'est trop superficiel. Parce que ça, on peut le faire soi-même.
Voilà, exactement. C'est trop superficiel et Google se dit, mais non, mais si tu veux regarder ce truc-là, autant que tu regardes la page sur Amazon. Je vais pousser la page Amazon. Et pourtant, tu vois, ce texte-là, j'avais quand même fait un truc avec donc un prompt avec une structure principale. J'avais en fait dit à mon assistante d'aller sur Amazon et d'aller pomper tous les commentaires. Tu prends tous les commentaires et tu vas en fait à faire un best-of de ces commentaires-là. Sauf qu'en fait, tu vois, point fort des commentaires, point faible des commentaires. Sauf que là, tu vois, c'est pas pertinent. Voilà.
Oui, parce qu'on est, quand même plus, si tu veux, dans une approche comme ça, documentaire, d'avis. Donc,
c'est pas
c'est pas forcément, je pense, que ce qui est attendu.
Alors un qui est beaucoup plus simple là, c'est je veux le replay. Alors comme je le disais tout à l'heure, moi j'aime bien pousser les webinaires, j'aime bien apporter de la valeur.
Ça fait toujours débat. Hein.
Ben, en fait,
c'est une question ou c'est une demande tellement régulière.
Les gens n'ont plus le temps de regarder du live et donc en fait, nous on se rendait compte qu'on avait une érosion du nombre de personnes qui s'inscrivaient. Et le jour où on a mis je veux le replay, eh ben en fait on a eu 20 à 40% des demandes en plus.
Bien sûr.
Et il y a beaucoup de gens
qui démontrent bien, contrairement aux idées reçues, que les gens prennent le temps quand ils sont vraiment intéressés de regarder le replay.
Ah ouais, bien sûr. Je dirais même les slides, parce qu'en fait, avant même d'aller regarder le replay, les gens regardent les slides en diagonale. Ils disent ah ouais, c'est intéressant pour toi. C'est pour ça que tu vois, moi, je t'ai fait ce support-là, parce que ce support-là, tu pourras l'utiliser, diffuser aux personnes qui se sont inscrites. Donc, sur LinkedIn, moi, ce que je fais, c'est que les contacts de niveau 1, je leur envoie un petit message. Des contacts de niveau 2, eh ben, je leur demande en contact et je leur dis tiens, voilà, suite au webinaire, voici les slides avec un lien court, etc., etc., limité à 200 caractères. Mais ça permet aussi d'avoir un premier niveau de contact aussi et un bon prétexte d'avoir un contact avec les personnes. Voilà, donc le je veux le replay, c'est un moyen comme ça d'aller capter des personnes en plus et de ne pas rester scotché. L'autre astuce, c'est l'invitation de cloque. Là, maintenant, moi, systématiquement, quand on fait des gros événements physiques ou virtuels, et que j'ai bien sûr les adresses email des personnes, je leur colle un rendez-vous dans leur agenda. Et ça te permet en fait d'avoir, la dernière fois, je crois qu'on a fait 7% de plus de participation live. 7 points, excuse-moi. Plus 7 points. 7%, j'aurais pas fait.
Très intéressant. Donc, une invitation à Outlook anonyme.
Oui. En fait, okay. Tu peux faire, tu envoies en fait ici Navit avec masquer la liste des participants. Après, tu as des solutions de webinaire qui te génèrent une invitation iCal automatiquement qui te crée dans ton agenda. Et en fait, c'est moi qui envoie depuis mon propre Outlook une invitation. Alors, pour éviter le fait d'avoir des gens qui transfèrent l'invitation, faut généralement pas autoriser le transfert, hein, parce qu'autrement, ils vont le transférer sur, par exemple, un Gmail, et sur Gmail, après, tu vas pouvoir voir la liste des participants. Donc, tu n'autorises pas le transfert. Tu fais par petit paquet. Moi, je le fais par paquet de 10 ou de 20, ce qui limite, en fait, les gens qui peuvent te pirater ton adresse. Voilà. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment simple et qui va permettre, en fait, de fiabiliser le nombre de personnes qui viennent à ton webinaire ou à ton événement physique. Et ça, c'est vraiment simple. Donc, je t'en parlais tout à l'heure des vidéos, hein, Opus Clip, j'en suis un gros fan. Donc, tu vois, je récupère des vidéos comme on le fait ensemble. C'est découpé en une vingtaine de petits mini-clips. Et en fait, moi, je l'analyse. Alors, j'ai essayé d'automatiser ça.
Oui, parce que ça peut servir aussi de teaser. Hein.
Exactement. Ben, j'ai essayé d'automatiser avec mon assistante, disant tiens voilà, essaye de faire les analyses et tout ça. Donc, elle me fait des mini-vidéos, mais quand tu n'as pas la compétence, quand tu n'as pas l'échange avec la personne, parfois tu passes à côté de la vidéo. Alors, au final, ça me met 10 à 15 minutes pour faire une mini vidéo à partir d'une grosse vidéo.
Mais, est-ce que tu prends le temps de visionner?
Oui. Oui, bien sûr, justement.
Chaque clip.
Ouais. Enfin, pas que chaque clip. Je regarde le résumé. Si le résumé me paraît intéressant, ah oui, je le prends. Et là, à ce moment-là, j'ajoute des parties avant, des parties après, etc., etc. Donc là, c'est de bonne manière. Mais que toi, mon assistante, elle le fait. Et des fois, je trouve ça manque de saveur. Elle a loupé des choses. Et donc, j'ajoute des choses avant, des choses après. Donc, c'est pas encore c'est une bonne base de travail. Ça te permet d'avoir un contenu déjà facile à utiliser, mais c'est pas encore.
Ça reste à optimiser.
Voilà, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va te permettre en fait aussi de planifier cette publication sur différents réseaux. Tu vois, moi sur TikTok, c'est pas mon réseau préféré. J'ai, comme je le disais, j'ai des réseaux défensifs, des réseaux offensifs. Et TikTok, c'est une des plateformes où il y a encore beaucoup de trafic naturel, il y a encore beaucoup de choses à prendre. Et en fait, ce que j'essaye de faire moi, c'est d'avoir une présence défensive sans avoir trop de dépenses en temps, sans avoir trop de dépenses non plus en énergie, parce que faire de la vidéo pour la vidéo quand c'est pas vu, ça ne sert à rien. Donc en fait, c'est une des plateformes où tu vois les vidéos font 300, 400, 500, 1000 vues sans effort. Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai ces fameuses vidéos, j'essaye de temps en temps de les découper. Alors là, actuellement, je suis un peu juste au niveau timing, mais autrement, tu vois, à un moment donné, c'était une publication tous les jours et 300 vues tous les jours. Bah, même si, comme je te disais, ça n'aura pas d'impact comme une vidéo longue, et ben en fait, ça te permet quand même d'avoir une présence sur des plateformes qui ont encore de la croissance. À l'inverse, tu vois, sur Instagram,
t'as le mérite d'être présent.
Voilà. Et par contre, sur Instagram, tu vois, moi, je perce pas. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas la communauté, j'ai pas l'animation.
C'est compréhensible. Je pense pas que ce soit forcément le
réseau. C'est pas aussi simple parce que t'as pas un trafic naturel. Alors il y a un peu de likes, il y a un peu de trucs. Mais ça reste anecdotique, quoi. C'est pas avec ça que je ferais du trafic, quoi. Donc, et c'est pour ça que je dis qu'aussi dans le contexte du degrowth hacking, donc du growth hacking éthique, ça ne sert à rien d'aller produire du contenu si ce n'est pas liké, si ce n'est pas commenté. On est vraiment sur un effort qu'il faut faire que si ça a de la rentabilité. Je t'en ai parlé tout à l'heure, l'acte numéro 6, hein, créer du lien avec ses contacts. LinkedIn.com/célébration. Moi, j'essaye de le faire régulièrement. Et c'est vrai que ça évite d'avoir que des messages promotionnels et ça permet de créer du lien. Et moi, ça me permet de reprendre contact avec des personnes avec qui je n'ai pas échangé depuis un certain temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande de faire et de faire en toute sincérité parce que des gens me disent « Non, mais je trouve ça faux de souhaiter les anniversaires. » Moi, je dis « Mais moi, j'aime bien souhaiter les anniversaires. » Et je le fais sincèrement.
Par contre, c'est quelqu'un d'aigri qui a dû te dire ça.
Non, c'est quelqu'un qui est contre l'IA, de manière globale.
Et tu vois, t'en as aussi.
Contre l'IA, contre l'automatisation, etc., etc. Et c'est vrai que là, tu vois, je vais aller directement dans ma messagerie. Donc voilà, comme je disais, mon principe, c'est l'IA ou l'assistante qui fait le premier message, mais après, c'est le deuxième. Par exemple, tu vois ici. Il y a la petite fenêtre du live. Tu vois, il y a à 8h mon assistante qui a fait le truc. Et c'est là, en fait, tu vois, je lui ai envoyé qu'un seul message promo, mais ça, c'est un vrai message. Et il m'a répondu. Il m'a pas répondu au message d'avant. Hein. Tu vois, j'ai fait un truc, il m'a pas répondu. Par contre, au bon anniversaire, il m'a répondu. Et là, ce que je fais, c'est que je vais dire, c'est un plaisir. Tu vois, généralement, j'essaye de faire un petit like, c'est un plaisir. Toi, parce que de rien, ça fait un peu négatif. C'est un plaisir. Profitez bien de votre journée.
Oui, c'est ça.
Profitez bien de cette journée et bon week-end par avance. Toi, ça crée du lien.
Oui.
Bien de cette journée et bon week-end par avance. Par avance. Voilà, on est vraiment dans cet aspect. Je veux faire de l'humain. Raconter ça.
Tu sais, il y en a qui se connectent peu sur LinkedIn et je peux t'assurer que moi j'ai des retours parfois des semaines ou des mois après.
Ah bah oui.
Et les les gens apprécient.
Ouais. Alors tout le monde ne fera pas. C'est pas systématique, mais enfin n'appréciera pas, ne fera pas un retour. Mais voilà, je trouve que c'est un moyen de créer du lien. Voilà, et d'être plus dans cette fameuse authenticité. Et le dernier acte, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est changer de prestataire d'emailing. Hein, voilà, je vous ai mis le détail ici. Toi, tu peux avoir Substack, Brevo ou Mailjet. Hein, c'est des solutions où tu ne payes qu'à l'envoi. Parce que le problème, en fait, de la plupart des solutions d'emailing, c'est qu'en fait, tu payes au nombre d'abonnés avec des gens qui ne disputent tes messages. Donc, tu payes pour rien. Donc, ce que moi, je conseille de faire, c'est à ce moment-là, tu passes sur ces solutions d'emailing low cost. Auparavant, tu les passes sur Captain Verify. Léopathu, Medverif, peu importe. En fait, tu vas pas non plus mettre de la pollution. Parce que si tu mets des emails de gens qui, leur email est mort, tu vas te flinguer toi-même et tirer une balle dans le pied avec ta solution d'emailing. Tu les passes d'abord à ces solutions de vérification d'email. Une fois que tu as éliminé les spam traps, les emails inactifs, les domaines inactifs, tu arrives sur un truc qui est un petit peu propre et tu l'envoies par petits morceaux. C'est-à-dire que tu ne vas pas l'envoyer 20 000 d'un coup. Avec ton nouvelle adresse IP, hein, ton nouveau nom de domaine. Par exemple, tu vois, moi, j'ai un nom de domaine qui s'appelle conseil-marketing.com, alors que mon site internet, c'est conseil-marketing.com. Là, en fait, ça me permet de envoyer nouvelle adresse IP, nouveau nom de domaine, qui est proche, avec l'expéditeur qui est toujours Frédéric Canavette de conseil-marketing.com, mais qui me permet, en fait, comme ça, d'aller toucher une nouvelle personne. Donc ça, c'est vraiment assez, assez intéressant. Et toi, pour être transparent avec toi, tu vois, Substack, c'est ce que j'ai fait, hein. Alors, hop, je vais sur mon compte Substack. Donc ici, hop, on va aller sur le tableau de bord. Toi, je l'ai. Alors, attention, Substack, petit warning quand même. Substack, j'ai intégré tout d'un coup, j'ai demandé à mon assistante d'aller intégrer par morceaux, et après j'ai intégré, paf, tout d'un coup, je sais pas, 20 000 emails. Attention, ils vont te dire, d'où ça vient? Faut que tu justifies d'avoir une facture de ton ancien prestataire d'emailing. Tu vas pas balancer comme ça des emails. Mais tu vois là, forcément ça n'a pas de sens. Mais toi, j'ai récupéré mes abonnés de manière régulière, je les ai mis dedans. Après, bien sûr, tes abonnés, ils se désabonnent au bout d'un moment, mais de manière naturelle. Après, tu récupères aussi des abonnés de temps en temps. Et c'est assez intéressant. Après, par contre, je te parlais d'écrire des notes de temps en temps. Toi, tu as très peu de vues. Ce qui compte véritablement, c'est d'envoyer des messages emailing. Et c'est là que tu peux avoir des messages. Alors, toi, mon assistante, elle envoie tous les jours, une publication tous les jours. Et là, toi, tu as quand même 26K. Ce n'est pas des vues, c'est des ouvertures d'emails. Toi, 19% d'emails. Donc, c'est des gens qui étaient pourtant inactifs. C'est des gens qui n'étaient pas, comment
Il y a
dire.
débat hein, là-dessus, hein, sur aussi ce fameux taux d'ouverture hein, des emails. Hein.
Ah ouais, non, mais surtout que
Parce
sur
que
Substack,
c'est
justement.
souvent qu'une impression. C'est
Ah ouais, non,
souvent
mais là.
qu'une vue. Est-ce que ça a été lu?
Ah, ça n'a même pas été vu souvent. Là, les 26K, ce n'est pas des vraies vues. Hein. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que écrire ce qu'on appelle des notes et faire une publication tous les jours, ça te permet en fait de créer, de récupérer régulièrement. Toi, je te parlais du petit script Substack que j'ai créé avec Claude. Regarde, il est là, tac. J'en ai même fait une petite application Chrome parce que ça, en fait, ça
Excellent.
se fait en tout seul. En fait, tu demandes ensuite à Claude, hey, crée-moi le pack pour faire une application Substack, et voilà, toi, il va liker. Alors, ça, encore une fois, c'est du faux engagement. J'ai dit tout à l'heure, ça te rapporte pas grand-chose. Je continue là à le faire de temps en temps, mais c'est pas ce qui va fonctionner. Parce que, en fait, tu vas certes avoir un petit like, mais les gens ne vont pas le voir. La plupart des gens qui ont une communauté ne vont pas regarder qui a liké. Si tu veux avoir de la valeur ajoutée, il faut que tu fasses un commentaire. C'est comme sur LinkedIn. Sur LinkedIn, liker une publication, c'est sympa. Mais ça ne sert à rien. Ce qui va apporter vraiment de la valeur, c'est le commentaire que tu vas faire. Et suite à ce commentaire que tu vas faire, tu vas dire, bah, suite à l'échange qu'on a eu ensemble, qu'est-ce que vous pensez de tel truc, tel truc, tel truc. Voilà. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir le valoriser. Et c'est là que tu vas avoir de la visibilité. C'est pas un like. Toi, c'est justement comme ça on pourra finir et boucler la boucle. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que c'est possible de le faire qu'il faut le faire et que ce soit rentable. Là, je pourrais très bien lancer le script et lancer les likes des publications Substack toute la journée, mais ça ne sert pas à grand-chose, ça prend la ressource machine et ça ne donne pas de résultat et c'est loin de l'authenticité. Par contre, à l'inverse, ajouter ta page de contact d'inactif, les mettre dans Substack, ça a un intérêt. Publier du contenu à valeur ajoutée, ça a un intérêt parce que ça permet de montrer ton expertise.
J'apprécie tout particulièrement, Frédéric, parce que c'est vraiment ça. Et c'est comme ça aussi que je conçois en fait le growth hacking. C'est d'abord réfléchir avant d'agir.
Ouais. Alors après, il faut tester. Moi, j'ai aussi une philosophie qui est, et c'est typiquement du growth hacking, c'est fail fast. C'est plutôt avoir des regrets que tester ou demander pardon que la permission. Donc
Non,
des fois,
plutôt,
moi,
tu veux dire plutôt avoir des remords que des regrets.
voilà, pas avoir des, oui, avoir de regrets. Tester un truc. Et c'est vrai que je pense que c'est important même pour nous. En tant
Bien
que
sûr.
personne, c'est de tester des choses de manière régulière parce que si tu fais tout le temps la même chose, tu t'ennuies. Alors moi, je teste souvent des trucs. Après, ça marche pas. Je me suis ramassé parfois des grosses vestes. J'ai fait des erreurs. J'en ai plein. J'en ai plein. Mais quelque part, ça, entre guillemets, ça te force avoir une discipline d'apprentissage et surtout, ça te force à apprendre et à réagir. Parce que dans le monde à venir qui va être de plus en plus incertain, on parle de monde banni, tu vois, on parlait de monde VUCA qui était vitesse, blablabla. Maintenant, on est dans un monde banni où tu es dans le monde des écarts-types, le nombre des choses qui vont changer du jour au lendemain. Et ben en fait, là, on est vraiment tout à fait là-dedans et il faudra apprendre à
et le
avoir...
monde, et le monde des extrêmes aussi, d'ailleurs.
Ouais, ben plus voilà. Voilà, exactement, parce que c'est ça, c'est exactement ça. En fait, le banni, c'est un monde des écarts-types. C'est-à-dire que tu vas plus avoir sur une moyenne comme actuellement, mais tu vas avoir des écarts-types. Comme là, la météo aujourd'hui, 27 février, où il y a deux jours, je me disais, waouh, j'ai de la fièvre, c'est pas possible, j'ai super chaud. Et en fait, non, j'étais derrière la fenêtre et puis il faisait 27 degrés. C'est incroyable. Donc, on arrive dans un monde banni, donc fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible, qui va devenir en fait la norme. Et donc, il va falloir apprendre à être plus réactif. Et justement, le growth hacking apprendra à ça, à faire ça. Et puis, il faudra bien sûr avoir une philosophie de test and learn. T'essayes des trucs, ça marche pas. Moi, toi, comme je te l'ai dit, j'ai flingué mon profil LinkedIn. Ça m'a fait mal. C'était quasiment un an et demi de travail. Paf ! Qui pète. Là, tu dis, oh non, c'est dur. Par exemple, mon blog aussi. Tu vois, mon blog... Comme je te le disais, il y a 10 ans de ça, même pas il y a 5 ans de ça, juste avant l'IA générative, ils faisaient 10 000 visiteurs par jour. Maintenant, c'est 2 000 visiteurs par jour. Oh, tu dis, oh non, c'est terrible. Bah, quelque part, tu es obligé de changer de braquet et changer tes idées et changer tes méthodes. Donc, il faut apprendre et il va falloir le faire de plus en plus.
Exactement. Alors, est-ce qu'on peut voir maintenant ta photo ?
Ma photo
Est-ce qu'elle a été générée ? Tu sais, ta photo professionnelle, ton picture.
Alors, cette photo que tu vois là à l'écran, là, avec l'ordi, eh ben, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est une photo qui a été faite par ma fille de 10 ans.
Est-ce que tu peux le repartager ? J'ai plus ton écran.
Ouais, alors, ouais, attends, hop, je vais me remettre là-dessus. Alors, celle que tu vois ici, alors, je vais te montrer plusieurs. Hein. Hop, celle-là que tu vois là, ici, hop, je partage mon écran. Celle-ci-là, donc c'est une photo IA qui a été réalisée. À l'époque, ce n'était pas fait avec Gemini, c'était avec une autre IA qui m'a généré plusieurs photos de profil. Celle-là, bien sûr, elle a été faite avec l'IA. Et la photo que tu vois sur mon profil LinkedIn, je pense que c'est celle-ci. Hop. Ouais, voilà. Celle-là, c'est ma fille de 10 ans. À un moment donné, je dis, bon, allez, Anaïs, prends-moi en photo. Et donc, en fait, je dis, bah, allez, tu fais ci, tu fais ça. Et c'est une photo qu'elle a fait moi-même, qu'elle a fait elle-même, tu vois. Donc, ça, c'est, on ne peut faire, on ne peut plus humain. Après, je me suis amusé aussi à faire des clones. Hein. Tu vois, tu utilises des outils comme iGen. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Une petite vidéo faite avec iGen, tu peux te cloner toi-même. C'est dingue. Mais encore une fois, il faut trouver l'intérêt. L'intérêt, en fait, de iGen, ça peut être, par exemple, quand tu es pas à l'aise à l'oral, que tu veux, en fait, faire une vidéo de lancement en multilingue. Là, ça a tout à fait du sens. Par contre, est-ce que ça vaut pas plus d'avoir cette imperfection et faire ta vidéo teaser toi-même? Donc, encore une fois, faut trouver l'usage.
Mais regarde, tu vois, ma photo, c'est aussi une photo générée par l'IA, mais tu sais, c'est les fameux photobooths. Tu sais, les photomatons, en fait, voilà, dopés à l'IA. Donc, j'en ai une pour la saison hivernale, une sur la saison printanière. J'ai fait ça lors d'un événement AWS. Et c'est excellent. Aujourd'hui, les possibilités sont tellement nombreuses en fait, c'est à nous. C'est à nous de tester. Et c'est à nous de choisir, en fait, ce qui nous correspond.
Ouais, tout à fait. Par exemple, là, lorsque je sors un nouveau bouquin, ou par exemple, lorsque on m'offre un bouquin, ou un produit, ou peu importe, souvent quand on m'offre un bouquin, maintenant, je réclame un PDF parce que je me dis, ça sert à rien de demander du papier, je préfère un PDF que je vais parcourir, ça sert à rien de faire de la poste et tout ça. Par contre, bah, j'aime bien le livre quand même parce que tu rentres à fond dans un sujet. Et ben, en fait, des fois, je demande à l'IA, bah, fais-moi le bouquin sur les merci, je l'ai jamais lu. Par contre, c'est l'IA qui m'a fait la main. Alors, ça se voit que c'est pas tout à fait naturel, etc. Mais ça permet en fait de faire une petite vidéo qui va montrer que finalement on a le bouquin avec soi, quoi.
Bah écoute, il vaut mieux ça que ne rien savoir du tout. Comme en fait on peut le voir où tu as des invités qui sont interrogés et en fait les animateurs, eux, n'ont jamais lu le bouquin. Ou même pas un résumé, ou c'est leur assistant en fait.
Ouais, alors moi ça m'est déjà arrivé en fait de. comment dire, de d'avoir des interviews avec des personnes que je ne lis pas, parce que je dis, j'aurais pas le temps de faire l'interview. Par contre, donne-moi le bouquin ou donne-moi comment dire, le PDF et je vais parcourir rapidement le bouquin, je vais le filer à l'IA, faire un petit résumé, je vais regarder le truc rapidos. Moi, je suis honnête, je n'aurais pas le temps de le lire. Par contre, tiens, il y a ce chapitre-là qui est intéressant, ce truc-là, il me paraît sympa. Ou alors, je demande à l'IA de me faire un petit résumé et hop, après, on fait l'interview, quoi.
Ok, alors pour résumer, parce que c'est vrai qu'on a échangé, tu vois, longuement, on arrive là à 14h et s'il y en a encore qui nous suivent, merci d'être resté avec nous. Donc, que ce soit pour ceux qui veulent quelque part se lancer ou tester ce levier du growth hacking couplé à l'IA, ou bien ceux qui souhaitent optimiser tout simplement leur pratique, qu'est-ce que tu recommanderais en quelques
Alors,
mots?
moi, en fait, ce que je recommande, c'est se lancer, tester, n'ayez pas peur. En fait, le growth hacking, c'est rien de très compliqué, c'est un mot un peu barbare, mais lancez-vous, et essayez les choses. En fait, après, bon, il y a mon bouquin, mais tu peux retrouver pas mal de vidéos, mes articles de blog là-dessus, et vraiment apprendre à se lancer. Le growth hacking, c'est vraiment une philosophie en trois parties. La première, les hacks. Donc ces fameuses astuces, tester des choses. Alors je l'ai bien dit, il y a les white, les gray et les black. Moi, je fais du white et du gray. Donc ces fameux hacks qui permettent d'aller faire un petit bond de croissance. Et après, il y a la méthodo, le framework AER, qui permet vraiment d'analyser son activité, son parcours client, son cycle de vente. Et c'est là où on choisit de faire les bons choix. Et donc, moi, j'incite vraiment à faire ça, c'est se dire, voilà, lancez-vous, analysez les données, parce que ça va être de plus en plus compliqué. Tu as tellement de pléthore d'outils, tu as tellement de pléthore de méthodes, comment faire le bon choix? Et comment sortir du lot? Et donc, il faut utiliser ces fameux hacks et utiliser des méthodes, et le cross hacking est une des solutions pour le faire. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres manières d'optimiser son activité, mais celle-là est vraiment très simple à mettre en place.
Alors, j'ai appris qu'il y a un nouveau livre qui va
Ah
bientôt être publié.
oui, alors ça, c'est un livre que j'aurais écrit 80% coécrit avec Jean-Paul Crène, qui va sortir au mois de juin. Ça va être une méthode en fait en 90 jours pour essayer de booster son business. En fait, on s'est mis dans l'idée que voilà, tu es entrepreneur. Et par mal, il y a des gens qui disent, mais comment je peux faire? Je vois que mon business est plus compliqué, comment je peux faire pour m'en sortir? Et là, en fait, on s'est dit, mais si on avait une personne qui était en face de nous, qu'est-ce qu'on lui dirait de faire? Et on lui donne en fait une méthode à te suivre, tout simple, en 90 jours. Jour 1, tu fais ça. Jour 2, tu fais ça. Ta, 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 avec un plan d'action. Et notre but, justement, c'est de se dire, t'as plus le temps de lire des bouquins, t'as pas le temps de lire le Mercator qui fait 500, 600 pages. Tu veux quelque chose de concret au pratique et passer justement sur cette théorie de l'effectuation. C'est-à-dire que vaut mieux faire des choses que ne rien faire. Et voilà. Alors après, bien sûr, tout le monde dira, ouais, mais si t'as pas de stratégie, si t'as pas fait d'audit, ça va pas. Mais en fait, grosso modo, on sait très bien que il y a toujours des solutions qui sont communes à tout le monde et qui iront à
Mais
tout le monde.
oui.
Donc,
Mais
choisissez.
dans tous les cas, c'est toujours mieux de passer à l'action.
Voilà. Tout à fait. Voilà.
D'accord. Et une autre actualité, peut-être?
Alors après, oui, je sortirai un autre bouquin, mais cette fois qui sera réalisé, je pense, à 60-70% à l'IA. Là, c'est avec un rédacteur sur Amazon, enfin un auteur sur Amazon avec qui on fait une expérimentation. C'est-à-dire que je vais transformer ma formation vidéo LinkedIn en un bouquin. Parce qu'en fait, j'aime bien en fait qu'il y ait un support papier. Donc il y aura cet aspect omnicanal. Donc pour ceux qui l'aiment, il y aura le bouquin et qui sera encore une fois un résumé très synthétique et la formation vidéo pour faire le how-to, comment faire tout ça.
Bon, eh ben, écoute, c'est prometteur. Là,
Des
tu as
longues
du pain sur la
soirées, des longues
planche.
nuits.
Voilà, des longues soirées, des week-ends et des semaines bien chargées. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai hâte. Tu nous tiendras
Et
bien sûr au
je
courant.
l'offrirai, bien entendu.
Avec plaisir. Vraiment, écoute, je me suis régalée. J'ai pas vu le temps passer. C'est peut-être le cas aussi de ceux qui nous regardent encore. En
Oh,
tout cas, très riche. Merci d'avoir vraiment pris le temps. D'échanger, de partager tes connaissances, tes hacks et puis aussi ta vision du growth hacking. En tout cas, moi, pour ma part, je connaissais déjà, bien sûr, puisque c'est mon domaine d'activité, mais j'ai appris de nouvelles choses je suis convaincue que voilà, qu'il y a une vraie valeur ajoutée sur ce levier à condition d'en faire bon usage, tout comme de l'IA.
Ouais, tout à fait.
Donc, merci à tous de nous avoir suivis.
Merci.
Pour
Et puis à
ceux
bientôt.
qui vont nous retrouver en différé, bienvenue et nous invitons donc à suivre ce live aussi en différé, à commenter. Hein, vous pouvez bien sûr poursuivre les échanges.
Et si vous avez des questions, mentionnez-moi et j'y répondrai bien entendu.
Voilà. Et on attend aussi bien sûr vos questions. Puis je vous invite surtout à suivre Frédéric Canvet, parce que voilà, son actualité est riche. Et enfin, moi, pour ma part, j'apprends toujours beaucoup
Ah
de
bah moi
choses.
j'apprends tous les jours. Tous les jours, tous les jours.
Parfait, ben, merci beaucoup.
Allez, à bientôt.
À bientôt. Et puis, ben, bon week-end à
Bon
tous.
week-end. Bye
Ciao,
bye.
ciao. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances.